Charles Wayne.
Crack tes pierres, fais un glace, hey. Ouh, je vais te creuser mon doigt dans l'œil.
Oui,
je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. C'est la hype, on va te gaz. Hey, je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil.
Oui,
je vais te creuser mon doigt dans l'œil. C'est la hype, on va te gaz.
Bien. Bonsoir, mes petites coccinelles ougandaises. C'est tellement pas le soir, Big. C'est même une de nos éditions les plus matinales ever.
Ouais, il y a celle de pas de côté qui était de bonne heure en crise, là, ça, je m'en rappelle, là, genre à 8h, 8h30, là, tout.
Pas live, tu comprends? Tu t'en souviens, tu sais?
Ouais, ah, c'est vrai, c'était pas live. Ouais, c'est vrai. D'abord, c'est...
Mais oui, je me rappelle qu'on s'était levé genre 8h30, 9h. Puis que je me rappelle, je m'étais réveillé 5 minutes d'avance.
Ah ouais.
Deux yeux bien fermés. Puis tout.
Ouais.
Ceci étant dit, Hypo Podcast, bienvenue à tous les petits poutouillémoun assassins bandits volup au kidnapping qui sont présents. Et ben bonne fête d'avance à Greg.
Ouais, ben thanks man. Ouais, je m'en viens vu. Man. Ben aujourd'hui, c'est la fête, hein? C'est la fête à MVP, man. Notre bon chum, yeah. MVP Rudge.
Fait que bonne fête à MVP Rudge, man.
Yup.
Bonne fête à ma mère et à ma soeur aussi, que c'était hier.
Ouais.
Il y avait une bonne fête à un de mes coachs de Jiu Oblique, bon chum de Jiu, Patrick Roy. Quel nom peu commun. bonne fête à lui, Pat. Et bonne fête au combattant québécois Pierre-Olivier Bouffard, qui est un boy et tout.
Bonne fête, PO.
Fêtait sa fête le 22 mai, que c'est ça. Moi, c'est la fête à ma mère et ma soeur. Puis c'est de loin une des dates, genre, les plus communes de fête ever, je pense. Entre le 22 mai et le 30 mai, je connais tellement de monde que c'est leur fête.
C'est incroyable, hein? C'est ouais. Moi, là, je connais plein de monde que le 24, je jouais au hockey avec un gars, c'était le 24. En tout cas, je connais plein de monde que c'est la même journée que moi. Dont Guillaume Latendresse, ton cousin.
Ouais, mon cousin est vraiment très éloigné. Je pense que c'est Guillaume sa fête. Latendresse.
Je pense que c'est sa fête le 24. En tout cas, il y a une couple de joueurs de hockey que c'est leur fête. Mais oui, il y a beaucoup de monde que leur fête c'est au mois de mai. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas
donc,
qu'est-ce qui se passe au mois de septembre. Là, mais...
C'est ça. Le monde au mois de septembre. Là,
c'est ben, moi, le gros, là, je pense que la fête du travail. Week-end de 3 jours avant de recommencer, tu sais, l'année le scolaire et tout.
Colisse ça... leur blonde enceinte, man.
Ouais, c'est
là, là, c'est le point.
C'est là que ça se passe. À O'Larcher ou à.
O'Larcher.
Les enfants là-bas.
O'Larcher.
J'ai hâte
de faire. Fait que, man, parlons de la série entre les Canadiens et les Leafs sur notre podcast de MMA parce que, sincèrement, je pourrais vous parler du UFC d'hier. On va le faire, certainement.
Ouais.
Tantôt.
Oh, c'est ça.
Tantôt. Nous, on est d'avance, là. On fait le podcast plus tôt. Fait qu'on peut commencer avec le sujet le fun, le temps que le monde se rende compte qu'on est en train de faire un podcast. Puis là, tout à l'heure, on parlera MMA et de ces affaires-là. Mais anyway, je pense que l'affaire qui intéresse la majorité du monde le plus au Québec en ce moment, c'est la série entre les Canadiens et les Leafs qui, je te dirais, a pris une heureuse tournure hier. Là.
Non,
les choses se sont rétablies, man.
Ah. Puis,
les Canadiens n'ont pas gagné un deuxième match
qu'ils
ne méritaient pas de gagner. Oui, un bon merci aux arbitres hier soir.
Mais les Canadiens n'ont pas joué un gros match non plus. T'sais, je chiale ces arbitres, mais on va se dire vraies affaires. Les Canadiens n'ont pas sorti un gros match. Là.
Ben,
c'était soft.
Je ne sais pas si tu es d'accord pour dire que les Canadiens n'ont pas joué deux gros matchs à date.
Non.
T'sais, si tu regardes la série à date, ça a été deux matchs assez similaires.
Mm-hmm.
C'est les Maple Leafs qui ont toujours la rondelle.
Ils ont joué une grosse période, la première, man. La première des deux matchs. Puis c'est le même, il faut qu'ils jouent pour battre les Toronto, man. Puis ça me fait rire, Seb, lui, il veut que. Parce qu'hier, je disais, il faut les brasser, Maple Leafs. Puis lui, il est convaincu que si on les brasse, ben, ils vont sortir de là gagnant. Mais moi, je suis convaincu que non, man, parce qu'ils se font sortir à tous les colis d'année de main. Mais le Canadien, va falloir qu'il monte d'une coche parce qu'hier, ça allait vite, là. Tu vois que. T'sais, sur papier, là, Chris, tu compares les équipes là, à l'attaque, oublie ça, là, ça va vite. Fait que Il va falloir...
C'est fou comment que c'est arrivé à peu près 8 fois dans la game que Austin Matthews est juste arrivé en échec avant dans notre zone. Il a levé la palette du gars. Il a pris la rondelle.
Ah, c'était soft, man. C'était hier, là, je capotais.
Puis, tu sais, il parlait... En tout cas, l'affaire qui me gosse le plus de cette série-là, je vais te le dire tout de suite, c'est les analystes à TVA Sports. C'est dégueulasse, là, comment...
Ouais, mais si t'écoutes en anglais, le gros, sont vendus ben raide sur Toronto. Ben, puis si t'écoutes en français, man, ils sont vendus ben raide dans... Ouais. Ça, on est dans le pays des scénarios, là. Mais...
Ça, c'est normal, mais...
Ouais, vas-y, c'est
moi, quoi ça me dérange dit, pas là? D'avoir des commentaires vendus, là, mais c'est juste...
Ah, moi,
comme...
ça me fait chier, man.
Bon, là... Il parlait de Philippe Dano, puis à quel point Philippe Dano a fait du bon travail dans le premier match contre Austin Matthews. Non, man! Premier match, Matthews, il a eu genre eu 7 tirs au but. Là. La seule personne qui a bien fait contre Austin Matthews,
c'est Carey Price.
Puis gros, on s'en
c'est lui qui la... va. C'est lui qui change la... Premièrement, là, si c'est pas de Carey Price, c'est 2-0 pour les Leafs. Oui, là. On est d'accord.
La première game, je la checkais, puis je le savais, c'était 1-1, puis je le savais, je l'ai dit à maman, j'ai dit, cette game-là, je te le garantis, c'est Montréal qui gagne 2-1 sur
ben,
un
esti de but bizarre. C'est typique de Montréal.
Oui, c'est typique canadien.
Puis ça va être ça, là. Attendez-vous pas à ce que les Canadiens battent les Leafs 6-2, là. Si le Canadien sort de là, man, ça... Puis qu'il y a un match qu'ils ont gagné par 2 buts, ça va avoir été dans un open net. Puis on l'a nommé, là, le gars qui va faire la différence, puis qui peut faire en sorte que le Canadien sorte de là gagnant. Puis on l'a dit au départ, tout va dépendre de l'homme avec les grosses pattes. Puis là, oser d'admettre, le gros, que l'homme avec les grosses pattes a l'air en mission. Là, tu sais, là. Moi, il me donne confiance.
Ouais, mais tu checkes la game d'hier et il a beau faire son mieux, mais quand personne l'aide, c'est ça que ça donne aussi. Là.
Ben, quand tu cours pas de but, gros, lui, il peut pas en crisser dedans. Là. Ouais.
Ben non, mais là, genre, j'espère juste que. Parce que, écoute, man, je sais pas si ça va changer quand Caulfield va jouer parce que j'aime vraiment Cole Caulfield. Le gars, il est comme sur un rocket ship pour devenir mon joueur de
hockey préféré. On le voit pas, là, mais. Ouais. J'aime acheter hier le petit. Je voulais Anderson. Anderson, c'est mon gars. Puis là, je voyais le Caulfield. J'étais comme, ouais, lui, lui, je vais être content de l'avoir fait. Anderson
mec, se met à décevoir dans 2 ans. Le gros, ça ne te tentera plus de porter son jersey.
Ah non, moi, je l'aime. Gros, quand j'aime quelqu'un, je l'aime jusqu'à la fin.
Un bout, j'ai pas mis mon jersey d'Alex Galchenyuk. Je l'aime, Alex Galchenyuk.
Ouais, mais là, tabac. Ouais. Mais moi, big, quand je passe quelqu'un, man, comme je l'ai dit tout le temps, man, j'y vais jusqu'à la fin, man. Je sais qu'Anderson, son contrat est trop long, puis on va sacrer avec.
C'est la même affaire pour Piqué, là. Piqué, ça a toujours
Piqué est en décrease, man, puis ouais.
Mais ouais, mais gros, en vieillissant, il est devenu plus un joueur d'équipe, puis plus un joueur défensif.
Moi, je le ramène à Montréal l'année prochaine.
Ses teammates ont l'air de l'aimer, là, en ce moment.
Ouais, je le ramène à Montréal l'année prochaine.
OK.
Si on signe pas Ovechkin, là.
Mais ouais, mais ça pour dire que je sais pas si ça va changer si Caulfield est en uniforme, mais en écoutant la première game, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que le Canadien avait une chance, j'étais pisse. Puis à chaque fois que les Maple Leafs avaient une chance, j'étais genre oh yeah, c'est scoré, tabarnak. Fait que, regarde, je pense que j'aime pas les Canadiens, man. Je peux pas me forcer.
Ben, t'as le droit, man. Moi,
je peux pas me forcer, man. J'aime pas, on l'est, man.
Qu'est-ce pas que j'aime pas les Leafs, le gros, je suis pas capable. Je suis pas capable de les sentir, man.
Oh, man.
Gros, shout-out aux partisans, man, esti. Charlotte aux partisans des Leafs, là. Puis Seb qui essaie de me convaincre que Montréal est tout sipé, oublie ça.
Non, c'est la ville la plus cancer, autant pour les fans que pour les médias.
Le gars, hier, qui souhaite,
que tu penses que c'est de la merde jouer à Montréal? Va jouer à Toronto, mon chum.
Ouais, mais ça a l'air de New York et tout, mais Toronto, là. Mais gros, hier, comme je t'envoie, le gars, il souhaite. OK, je souhaite que Caulfield s'enfarge, que quelqu'un il passe le patin sur la gorge, qu'il se vide de son sang, qu'on le sorte à l'hôpital. Ça, gros, le gars, il a même pas joué une crise de game encore, resté.
Ah, mais ils veulent déjà qu'il meure.
Il est là, il veut qu'il meure. Tabarnak!
Ouais.
Mais écoute, c'est je m'attendais à rien de moins.
J'ai une dernière affaire, le gros. Y a-tu plus Canadien de Montréal que le joueur qui fait le plus peur à l'autre équipe, qui n'est pas ton goaler, soit même pas en uniforme pour les 2 premières fucking games de la calice de série, qui va faire que si tu perds, gros, si les Canadiens perdent, là.
Ouais, puis surtout
c'est fini, tabarnak, là.
Oh, ouais, c'est typique.
C'est le seul joueur qui fait peur, resti à l'adversaire, il joue pas.
Ouais. Mais
je voudrais pas jouer contre Kanyemi, puis là, t'as contre Kanyemi qui score hier.
C'est un goal qui a 5 buts en 11 games de playoff.
Ouais, qu'est-ce que vous calissez à faire jouer
là,
Rick Stahl?
Tu me sors fucking Merrill ou plus calisse, puis tu me rends Romanov là, qui brasse ça, man.
Gustafsson à la limite, man. Mais
ah, trop de revirement, man. Trop de revirement.
Ouais, moi, je l'aime bien, Gustafsson, par exemple. Mais c'est sûr que si je joue entre Romanov, puis Gustafsson, je mets Romanov, là. Mais oui, mettez vos bons jeunes joueurs. C'est ça, les Canadiens, en ce moment. Là, ton
mourir cours, avec là. Les jeunes. C'est eux autres, l'avenir, gros. Tu sais, Merrill, il n'est plus là l'année prochaine. Stall, il n'est plus là l'année prochaine. Tatar, le gros, je veux plus rien savoir de Tatar. Le gars, c'est un fantôme en série.
C'est incroyable,
mais tout ça pour dire, gros, tu m'aurais dit, OK, on sort de Toronto 1-1. Moi, je le prends. J'ai dit Canadien en 6. 1-1 en sortant de Toronto, je suis bien down avec ça, là. Il suffit d'un autre. Moi, ce que je veux, là, Big, c'est un autre victoire des Canadiens pour être sûr d'avoir une game 6 à fucking Montréal avec 2500 personnes, mais qu'on va avoir l'impression que le Centre Bell va être fucking loadé. Faut que je voie ça, man.
Tu le sais qu'ils vont te sortir les Can Cheer WWE.
Ah, ils vont, gros. Ils vont s'arranger pour que les Leafs, man, savent que Sty a du monde dans la place. C'est plate d'avoir une série Leafs-Montréal, pas de monde, man. Même si j'haïs Toronto et les crises de partisans, j'aimerais ça les voir, man, bouer puis crier, man. Puis let's go, man. Mais on a du bon hockey. Puis les Leafs sont forts. Le Canadien, man, s'ils gagnent, ça va être par un but, man, à tous les matchs. Puis ça va être à cause de Price. Puis c'est comme ça.
Je sais pas s'ils peuvent faire ça 4 fois, là.
Ben là, ça tombe une série 3-5. C'est sûr que ça fait peur, man. Mais gros, s'il y en a un qui est capable de le faire, man, c'est lui. Puis je sais qu'il y a des haters de Carey Price, mais gros, je vous jure, vous allez pleurer le jour où il va s'en aller, ce gars-là. S'il décide là, qu'il part là, à Seattle cet été parce que sa femme vient de là, puis c'est son second home place, là. J'aime bien Jacques Alain, là. C'est sûr qu'on va avoir 10 millions et demi pour patcher les trous, là, mais le trou que ça va laisser entre les deux poteaux, je vous garantis que là, vous allez faire « Ah, il était pas si pire que ça, Carey Price. »
Je suis tellement pas d'accord avec ce que tu dis, Alexis, là, parce que pour vrai, man...
On a vu l'expérience.
On gagnera pas la série là, avec Rick Stahl. Là.
Non.
Tu gagneras pas la série, tu sais, Romanov. Tu gagneras pas la série avec Merrill. Là. Check comment il joue, le gars.
C'est un gars qui remplit un gilet, là. Je mettrais Kel Fleury à sa place, je mettrais Xavier Ouellet à sa place. Il y a bien des gars que je mettrais.
Pas Ouellet, là, mais Kel Fleury amplement. Là.
Lui, j'ai hâte de le revoir dans le line.
Ben oui, c'est ça. Puis c'est pas comme s'il fallait sacrifier un bon vieux pour mettre des jeunes. Pourquoi je comprends pas le line-up du Canadien actuel, c'est que c'est pas comme si tu tassais Asti. Genre, tu sais, à la limite, même Thomas Tatar, là, tu comprends? Mais Thomas Tatar, là, il peut décider une game que finalement ça marche.
Il peut
te gagner à la game facilement. Fait que de tasser un Thomas Tatar pour mettre un jeune qui n'a pas l'expérience, puis nanana, je peux comprendre. Mais gros, tu vas me dire que Eric Stahl change vraiment de quoi? Il a pas pu jouer dans la première game.
Pourquoi la
stratégie des Canadiens, c'est genre une petite pause suicide dans le milieu en espérant de partir en échappée parce qu'on a des joueurs qui patinent?
Ouais, mais ça, c'est du charme, là. C'est pas canadien, là. C'est du charme.
On s'entend que c'est lui qui est. C'est pas mal lui qui fait jouer qui a le système de jeu du Canadien.
Moi, je suis pas mal sûr qu'il revient pas l'année prochaine, là. Mais en tout cas, ça, c'est un autre débat, là. Mais en tout cas, on a une bonne série, mon gars. Puis.
Gros,
ceux qui disaient Toronto en 4, Toronto en 5 ou Montréal en 4, en 5, ça c'était carrément ridicule tant qu'à moi. Là.
En 5, ça se peut encore. Montréal en 5, non. Ça se peut encore.
Mais je peux mais le pourcentage que ça arrive.
C'est impossible.
5% de chaque ball.
Je vais te dire honnêtement avec les deux
premiers. Toi, t'as collé quoi?
Oh, moi, j'ai pas vraiment fait de prédiction officielle.
J'ai collé Montréal en 6.
C'était définitivement un Toronto en 6-7.
Ouais.
Je m'attendais à une série. Je m'attendais que le Canadien allait être coriace. Je m'attendais pas à ce que les deux premiers matchs soient autant en faveur des Leafs. Puis après avoir vu ces deux matchs-là, j'exclus pas la possibilité de Toronto en 5. Parce que si Price goal pas, genre s'il fait pas des miracles, c'est pas en jouant comme ils ont joué des deux premiers matchs.
Ah, ils étaient
ils vont gagner cette série-là.
Je comprends pas, gros. Ils ont parti en série là, la première période. Gros, ils ont fait 7 checks, je pense, dans les 3 premières minutes.
Mais ouais.
Là, j'étais là. Bon, parce que si tu laisses les Leafs, man, patiner nord-sud, là, en aller, mon gars, là, oublie ça. T'es fait à l'os, man. Faut que t'aies mettre ses bords de bande et qu'ils patinent S-Ouest, mon gars. Fait que la première, ça a bien été. Il est arrivé le petit incident de John Tavares. Vous savez comment j'haïs les Leafs, les partisans des Leafs, mais gros, tu veux pas voir un enfant dans un.
Mais il y a personne qui haït John Tavares, par exemple.
Ben non, le gros, moi je pense que c'est un gars qui est overrated, là, pour vrai. Je vais te dire les vrais enfants comment je pense. Mais Calis, le gros, c'était. Je me cachais les yeux. Là. Le voir essayer de se débattre. Pour... Big, j'ai déjà fait une commotion cérébrale. J'ai déjà tombé dans le tremplin de 5 mètres à sud béton. Puis quand je me suis réveillé, je me fightais, man, avec les fucking ambulanciers puis tout. Fait que je me revoyais un peu là-dedans. Puis je me rappelle que ma mère m'avait dit, j'avais 12-13 ans, man. Greg, si t'arrêtes pas de bouger, tu pourras plus jouer au hockey. T'as jamais vu un gars tomber stiff de même, mon gars. Mais quand je voyais Tavares, mon gars, là, les jambes, le cou, les bras, j'ai fait aïe aïe aïe. Il est dans un autre monde, lui. Il est dans un autre monde.
Oui, mais gros, il imagine le finisher à Shinsuke Nakamura, là.
Eh, hein? Mais gros, la vitesse, le gros.
C'est violent,
là. Tu sais, au début, je voyais des gifs passer, j'étais là, Chris, ils l'ont accéléré, man. Là, après ça, je le revois à TV, tu fais, écoli, c'était pas mal à cette vitesse-là que ça s'est passé, hein.
Ouais, non, mais non, c'est ça, ça joue.
Puis parle-moi du bon chum Nick Foligno, big. Parle-moi de lui, là.
Gros, il a voulu faire le move d'équipe, mais c'est pas ça. Ouais. Ça n'avait pas vraiment lieu d'être. Parce
je comprends
que,
le code, là. Je suis un joueur de hockey, je comprends. Ça,
mais c'est parce que Corey Perry, il est juste. C'est vraiment, à la fois, c'était fucked up de voir ça parce que c'était brutal
mais
comme
c'est
la blessure la plus random que j'ai vue de ma vie. Mais oui, Corey Perry n'a pas une bonne réputation de ces affaires-là dans la ligue. Fait que...
C'était-tu le côté, moment le plus inquiétant depuis Pacho, mettons?
Ouais, 100%, man.
Tu sais, il y a eu Dano qui a quand même mangé la bine à Chara en arrière de la tête, là. Ça, c'était quand même pas nice non plus.
Ouais,
là.
Mais non, c'était pas.
Celle-là, était. Tu sais, j'oublierai jamais le goaler là, des Buffalo ou c'était les Blues, là.
Ouais, qui s'était fendu, là.
C'est, ouais, c'était un peu fendu.
un petit peu fendu.
Un petit peu fendu.
Mais, écoute.
On a du bon hockey.
D'ailleurs. 3-1 Bruins, man.
Ouais, mais Chris, je suis déçu, là, mais Chris de bonne série, pareil, big. Écoute,
c'est la deuxième meilleure série.
Après celle de Floride?
Non. C'est une bonne. Je suis d'accord pour dire que c'est une bonne série. J'aime mieux Montréal-Toronto. Je ne suis pas investi dans la série Floride-Floride.
Ouais. Ben, le premier match, c'était insane.
Oh, c'était malade, mais le gros.
On savait
on le sait comment ça va. Là, je vais te dire présentement mon feeling, c'est que tout le monde joue au hockey pour savoir qui va perdre en finale contre le Lightning de Tampa Bay. Là.
Ah, c'est dégueulasse, hein?
Ça n'a aucun crise de bon sens.
Gros, Kucherov qui joue pas de l'année, fait 3 points en première game comme si de rien n'était. 2 buts, une passe. J'ai rien perdu.
T'as même pas blessé. Je veux que
moi,
je dis pas qu'il était pas blessé, mais ça faisait longtemps que Kucherov
C'est de la merde. Kucherov, là, j'ai vu sa dernière game de saison régulière dans Q. Là. Il était à Rouyn-Noranda, il jouait avec Sven Andrighetto. Il avait fait 5 buts, 4 passes. Man. Ça avait fini 9 à 2.
Ouais,
écoute, non, c'est incroyable, ce gars-là.
Mais regarde, fait que c'est ça, là, ça joue au hockey. Puis tu sais, t'as Vegas qui est bon, Colorado sont très bons.
Colorado,
c'est Boston a l'air de vouloir passer Capitals. Ils vont être à surveiller là, de ce bord-là.
Ouais.
D'après moi, le gagnant de Montréal-Toronto devrait sortir. Là, on s'entend que.
Aïe, ça fait Jet soudure Oilers, Edmonton, le gros.
Ouais,
là,
Edmonton,
là.
Edmonton, c'est triste. Bro, c'est triste d'être un partisan des Oilers en ce moment.
Là, le monde va commencer à se demander si ça vaut la peine d'avoir deux gars, man, à ce petit salaire-là, man. Parce que gros, tu le vois, là, ça marche pas, là. C'est pas la NBA, ça, là. Tu peux pas avoir deux gars, man. Deux All-Stars et vouloir gagner un championnat au hockey, ça marche pas de même, man. Fait que.
Les équipes, tu vas dire les Red Wings, Alta, Iserman, Shanahan, Nick Lidstrom, Dominique Hachek,
Dingy. Ouais, mais les gars cotaient leur paye, man, pour jouer.
Non, il y avait juste pas de cap.
Ouais. Ouais. Ben, c'est ça, ça vient au même. Mais tu sais, ça marche plus, ça. Ils ont
20 millions aussi.
Tu sais, Toronto, là, si ça marche pas cette année, ils sont encore baisés, eux autres, pour. C'est incroyable.
Ouais, Toronto, mais marche, là. Mais tu sais, ça marche pas pire. Ça marche pas pire, Toronto, si tu check les games. Check les games des Oilers, ça marche rien que pas, là.
Ah non, c'est encore pire. C'est encore
pas le même genre de pas marchage, le Toronto.
Non, Toronto. Ben, ça. Non, je comprends.
Puis tu sais, mettons Toronto perd cette série-là, là.
Hey, gros, faut.
Tu peux encore mettre ça un peu sur le compte que. Sont vraiment malchanceux parce qu'est-ce qu'ils jouent mal? Est-ce qu'ils méritent
gros,
pas les games?
Non, gros,
pour vrai.
Malchanceux.
Mais gros, c'est un bad beat là, ce qui est arrivé à Tavares.
Ah, ok, ouais, je comprends. Mais gros, les années d'avant, c'est pas de la malchance, là.
Ben, gros, la série qui a brisé les Maple Leafs de Toronto.
C'est Columbus.
Ben non, gros, c'est longtemps. C'est la
oh, le comeback
par les ouais. Bruins.
Ah, ben, les Bruins, man. Les Bruins,
ils pile, ont brisé l'âme.
Ils pile, man, ça a fait des rames, mon gars. Quand...
Non, mais c'est pour ça que moi, j'aimerais, je veux que les Leafs gagnent parce que je rêve de les voir arriver bien pompés en finale de conférence puis se rencontrer.
Perdre contre Boston! Oh yeah, on a passé le first round!
Boston, même, son genre. Est-ce que c'est comme le boss final, là? T'es genre, t'as ta run de rêve, là, l'équipe qui est supposée de faire ça. Puis là, ils le font, est-ce pour une fois, puis là, ils arrivent en finale contre Boston, man. Puis là, son genre, bon, ben gros, si on veut aller perdre contre Tampa Bay, man, on est mieux dépassé, esti, parce que... Puis là, après ça, ils vont perdre contre Tampa Bay. Parce que c'est ça. Amener la coupe à Tampa tout de suite, là.
Hey, c'est incroyable.
C'est aucun cas, les abonnés. Parti de Samouraï, un peu?
Ben oui, au moins, esti. Oui, ça va.
Une coupe de... Je note, esti, de...
Hey, on n'a jamais... Moi, là, je vais lancer un appel à tous, OK, pour essayer d'aider Daniel là-dessus.
Appel
on
à
a
tous.
On a travaillé, en tout cas, j'ai travaillé. Cette semaine, j'ai essayé, rappelle-toi, man, dans anciennement TKO, sur la page Facebook, puis je l'ai sur ma page Les Gérants de Salon du podcast. Dans le fond, tu as une option, man, pour aller dans la communauté puis faire un partage à tous. À Star, c'est plus tout vraiment tes contacts au complet, là, mais c'est à shot de 200 par jour pour inviter la page. Écoute, on a passé deux soirs là-dessus. Il a mis son gars de réseaux sociaux puis tout. On n'a jamais été capable de trouver la solution parce que je pense que le format de page à Daniel est différent un petit peu.
Donc, ouais, si moi, jamais... je ne suis pas capable de la liker. Je peux juste être abonné.
Ouais,
je peux
c'est
pas
ça,
aimer
on est
la
abonné.
Page, je comprends pourquoi.
C'est sûr. Fait que si jamais il y a quelqu'un qui écoute le podcast, qui est calé en informatique ou dans Facebook, je suis sûr que Daniel serait content si vous le contactez ou passez par moi ou par Faber, puis on s'arrangera avec Daniel. Mais c'est juste, dans le fond, tu sais, ils ont pas loin de 1000 abonnés déjà sur leur page, mais tu sais, essayer de donner de la visibilité puis tout ça. Fait que si jamais il y a quelqu'un qui est capable de, qui comprend ce que je veux dire aussi, là je lance ça un peu tout croche, là. Mais c'est pour partager, dans le fond, la page à plus d'un contact à la fois. Donc, puis là, présentement, c'est pas possible. Quand tu pèses sur les trois points, tu peux partager, mais tu le partages comme un statut ou un article là, tu sais, que tu fais, là, ou tu l'envoies par message privé. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui est capable de faire le switch, là,
je comprends pas pourquoi c'est le même, parce que...
Mais... Écoute, moi et Daniel, on s'envoyait des messages vocaux, des images de screenshots, puis de...
Ouais.
J'ai pas été capable.
Okay. En tout cas, donc là, les développements, les prochains développements, les nouveaux développements, en fait, c'est qu'on sait où Samouraï veut présenter les événements. C'est que quelle place ça va être. Puis, c'est pas la Tohu. C'est pas la Tohu, mais c'est l'autre place où il y a pas mal tous les combats d'MMA quand c'est pas la Tohu. Puis, je pense que c'est un bon choix. C'est le centre Pierre Charbonneau, en effet.
À côté du stade, ça?
Ouais. Exactement, à côté du stade, à côté d'une station de métro, pas trop dans le centre-ville de Montréal non plus. C'est quand même facile d'accès à partir du pont Jacques-Cartier, puis qui a une plus grande capacité d'accueil que la Tohu.
La Tohu, c'est 2000, puis Charbonneau, c'est quoi, 3-4?
Écoute, regarde, j'en ai aucune qualité, je vais pas te dire ça, là, mais basically, oui, c'est dans ce range-là. Et puis, ben c'est ça. C'est là qu'ils veulent faire ça. Puis le target, là, à date, pour le premier événement, ça serait le 6 novembre. Mais on a toujours la possibilité que ça arrive avant. Si jamais il y a allègement des mesures, puis tout au mois d'août. Mais l'affaire, c'est que, de un, Samouraï veut, tu sais, à la date que tout va réouvrir, puis tout, je ne sais pas si c'est le 28 juin, là, probablement. Ils veulent s'assurer qu'il y ait au moins 2 mois d'entraînement complet pour tous leurs fighters. Parce que, tu sais, ils ont des fighters en Europe et tout qui peuvent s'entraîner. Mais le monde ici, tu sais, au Québec, en Ontario, ne peuvent pas nécessairement s'entraîner. Fait qu'avant de présenter un événement, ils veulent s'assurer qu'il y ait au moins 2 mois d'entraînement complet pour chacun là, des fighters sur leur roster. Pas pour qu'il y en ait un qui arrive plus entraîné qu'un autre.
T'sais. Non, c'est legit, moi, je pense.
Et puis aussi, c'est que pour l'instant, la régie ne peut pas présenter plus que 2 événements par mois.
Ah, ça switchait à 2, là.
Mais c'est plus 1, tu comprends? Ouais. Mais je pense que selon les termes théoriques, c'est deux. Parce que okay. dans le fond, les gens de la régie là, qui travaillent pour... sont obligés de faire une quarantaine de 14 jours oh, avant calme. L'événement. Fait qu'en théorie, vu qu'il y a 30 oh. jours dans le mois, tu pourrais présenter deux événements. Si tes employés faisaient une quarantaine, présentaient un événement, faisaient une quarantaine, présentaient un autre événement. Chose que la régie n'a pas envie de faire. De là, pourquoi il y a un événement par mois maximum. Fait que ça, c'est ça qui complique un peu, tu comprends? Parce que le centre Pierre Charbonneau sont down pour le 6 novembre, tout est beau. Samouraï sont prêts pour cette date-là. La régie pourrait être disponible aussi, mais... Ça fait qu'il ne pourrait pas avoir aucun événement de boxe au Québec pour ce mois-là. Il pourrait pas avoir, tu sais.
Ouais, puis c'est déjà réservé jusqu'au mois d'août, je pense, là.
Ouais, c'est ça, exactement. Ça,
il y a Eye of the Tiger puis Jim là, qui présentent des événements. Là,
exactement. Puis ils ont d'autres événements end the book, si on s'entend. Là. Ça ouais. continue d'avancer leur patate. Fait pour le temps que cette quarantaine-là est obligatoire pour les gens de la régie puis tout, c'est un peu compliqué de présenter un événement là, pour Samouraï. Fait que pour l'instant, c'est ça. Il y a aussi le nombre de partisans, mais c'est 250 par section
mm-hmm.
pour un total de 2500.
Mm-hmm.
Mais il faut que chaque section individuelle aille sa propre sortie pour pas que personne se croise. Puis ça, dans tout le Québec, il y a deux amphithéâtres qui permettent ça. C'est le Centre Bell puis le Centre Vidéotron.
Cool, yes.
Fait qu'on s'entend que ça ouais. sera pas ça. Il y aura pas d'événement
de premier, mais voilà, non, je pense pas que Daniel fasse ces erreurs-là. Ça,
yeah. Fait que ça, c'est ce qui est pour la tenue du premier événement. Aussi, présentement, sont en négociation avec des stations là, de télévision pour un contrat de télédiffusion. Il y en a une couple. Il n'y a pas 10 télésquelles en particulier, mais en tout cas, il faut sûrement faire là, un petit calcul rapide. Là. Quelle station de télévision au Canada serait intéressée à présenter des sports? Pas juste des sports de combat, là, genre des sports.
C'est un réseau, genre?
En général. Et en tout cas, ben oui, c'est un réseau. C'est peut-être pas le réseau des sports. C'est peut-être okay. TVA Sports. C'est peut-être Fight Network. C'est peut-être un des trois. Il y en a peut-être d'autres que je connais pas. Je le sais pas. J'ai même pas demandé à Daniel. Mais je me dis que si c'est pas un de ces trois-là, je me demande...
Il y a Fight. Fit.
Non, mais ben, c'est une application que tu cotais avec des pay-per-view online et tout. Okay. Je pense que les autres, le but, c'est d'être à la télévision.
Donc, on va pogner BTC là-dessus. Là.
BTC, c'est sur Fight ou ça? Je ne sais pas. Ça, je vais vous confirmer ça parce que c'est comme la semaine prochaine, on va parler plus de ces deux événements-là. Ici, puis BFL, que ça va s'en venir. Fait que oui, à suivre pour les droits de télédiffusion. Aussi, les nouvelles signatures cette semaine. Alex Ouellet. Maxime Poulain, a.k.a. Le Carcajou, un de mes surnoms, sinon mon surnom préféré dans tout le MMA québécois. Le Carcajou, c'est magnifique, man. James Cardinal Lauzon. Genre, si vous l'avez vu combattre amateur, lui, vous savez c'est qui, il mesure genre 13 pieds de haut. Il se bat genre à 170, de quoi de même, là.
Après, 13.
James, oh, et James, non, mais gros, il mesure genre 6'3, 6'4. Il est grand en tabarnak, le type.
Il était pas censé faire ses débuts à TKO, lui, justement?
Je pense pas, mais bon. il était prêt à être pro, là.
OK, vrai? OK.
Tout comme
Karim. C'est un nom qui m'a déjà...
Yes, ben c'est battu, ça a été, je pense, le dernier combat amateur de Johan Lennis.
Ah, OK.
Qui est une des seules défaites amateurs là, de James, d'ailleurs. Karim Enyen aussi, qui était un champion de ouais, MFL, puis de NFL aussi, la Ligue à Dany, si je me rappelle bien. Il s'était battu contre Kevin Ostigui, là, que je connais. Puis c'est ça, fait que Karim qui va faire ses débuts pro. Et puis, ben, Daniel il a mentionné là, à la Voix des Guerriers qu'il y a deux combattants là, qui espéraient bien gros ouais. signer avant la date limite de vendredi. Parce que là, puis ça, on va en parler après, okay, ben, j'ai de quoi à dire là-dessus. Mais
il y a une date limite pour les contrats, c'est pour la saison dans le fond.
Hein? Ouais,
soit
ouais,
ce contrat pour.
Exactement.
Voir... Ah,
exactement.
Ok.
Bref, puis c'est Louis Jourdain que lui, je pense qu'il va attendre de voir comment ça va. Je pense, on s'attend pas à ce qu'il signe, là, mais c'est un des combattants qui aimerait bien signer. Puis l'autre qui en a parlé assez longuement là, hier à Voix des Guerriers, c'est Michael Dufort. Puis moi, je m'en vais vous expliquer ce qui arrive là, présentement avec Michael Dufort. Michael va sans doute manquer la date limite là, pour signer le contrat avec Samouraï. Selon moi. Parce que Mick, son agent, dans le fond, il est aux États-Unis, lui. Il mm-hmm. est avec Daniel Rubenstein, puis je pense que c'est c'est Steve là, qui s'occupe de lui. Je ne suis pas trop sûr si c'est Steve exactement, mais bref. Il est avec Ruby Sports, là, l'agence de Daniel Rubenstein, qui est une agence aux États-Unis qui ont genre Peter Yan et plein de combattants. Là. Mais Mick cherche une opportunité aux États-Unis présentement, plus que d'autres choses, parce qu'avec sa fiche, pense qu'il est probablement à une ou deux victoires sur une plateforme de UFC Fight Pass de se retrouver à l'UFC ou au Contender Series. Fait que c'est ça qu'il cherche actuellement, Mick. Je pense qu'il aurait été ouvert s'il y avait un spot là, pas loin de du mois de novembre. Si, mettons, on apprend au 6 novembre l'événement, voici la carte, nanana. Puis s'il y a un spot qui se libère proche de là, puis il ne s'est pas battu, je pense qu'il serait willing. Mais écoute, de la manière que ça a l'air... De la manière que Samouraï a l'air de vouloir faire ça, je ne sais pas si ça va être possible. Puis les deux affaires que j'ai à dire là-dessus, c'est la première par rapport à Mick. Tu sais, quand il est venu sur le podcast, il nous disait que après 10 combats pro, il aimerait ça, faire de l'argent pour se battre, nanana, naturellement. Puis tu sais, je le comprends. Mais là, ça fait un bout qu'il n'a pas été actif. J'ai l'impression que Mick va falloir qu'il fasse le choix entre faire de l'argent pour un combat ou se battre sur une plateforme genre UFC Fight Pass, nanana. Parce que j'ai l'impression que peut-être que même Johan Lennes qui va se battre pour une belt CFFC, ça doit coûter de l'argent de sa poche pour aller se battre.
Ouais. Ouais.
Fait que dans le fond, est-ce que tu veux faire l'investissement de ta poche maintenant pour essayer d'aller à l'UFC le plus rapidement possible en étant sur une plateforme UFC Fight Pass comme LFA, comme CFFC, ou tu veux te battre ici où tu vas pouvoir... Tu sais, oui, il y a une échelle salariale là, de samouraï, puis pendant que tout le monde va faire le même nombre d'argent au début, j'ai l'impression. Mais tu sais, si tu vends des billets, tu as 30% ou 20%, je pense qu'ils ont dit 30% de code des billets. Mettez-moi pas des mots dans la bouche, parce que ça fait un mois de ça, je ne m'en rappelle plus. Mais en tout cas, il y a un pourcentage de ta code des billets qui est remis au fighter, comme c'était le cas à TKO, puis je sais qu'elle est plus haute que la code de TKO, mais je sais pas c'est quoi le pourcentage, je m'en rappelle
pas. Juste de l'avoir, l'argent, exactement. Ça va être déjà nice.
Fait que, puis Mick, il va vendre pas mal de billets, surtout si son comeback fight, il y a une couple de monde qui va vouloir voir ça, surtout qu'il risque d'être un headliner sur la carte, parce que Daniel Clément, il est là, à le voit des guerriers, a dit publiquement qu'il veut donc signer Mick Dufort, fait que c'est sûr que s'il signe Mick Dufort, d'après moi, mon guess non informé, c'est qu'il aimerait ça qu'il se batte contre le vétéran de l'UFC, Danilo Belluardo, mais bref, en tout cas, ça serait un des headliners de la carte, sinon pas le headliner de la carte.
Mais je pense qu'il vendrait, clair,
fait qu'il vendrait des billets, nanana. Fait que, nécessairement, s'il se bat pour Samouraï, il va faire plus d'argent. Mm-hmm. Puis ça risque de ne pas écouter d'argent pour se battre. Puis s'il va aux États-Unis, ça va peut-être écouter de l'argent pour se battre pour des billets d'avion, de l'hôtel, puis des affaires. Puis il va peut-être juste gagner 1000$ comme bourse. Mais il va peut-être se battre sur UFC Fight Pass contre un autre très bon prospect. Puis ça va le mener au contender par l'UFC plus rapidement. Fait qu'un moment donné, je pense que Mick va vouloir qu'il fasse le choix.
Ben, Big, moi je pense que son choix, il est fait. Tu sais, si tu me demandes en tant que fan, c'est sûr que moi, voir Mick Dufort, parce qu'on va être là à Samouraï, c'est sûr de le voir en action chez nous avec sa gang, mon gars qui crie comme des malades, c'est le fun. Mais je pense que Mick, la dernière fois, il était clair. Je pense qu'il était rendu à, tu sais, il avait demandé à ses commanditaires, c'était pas trop son fort, tu sais, il se demandait un petit peu. T'sais, ça faisait longtemps puis tout ça, mais c'est le monde a été quand même en appui avec lui. Ils l'ont appuyé là-dedans, tu sais. Fait que je pense que son choix, il est fait, mais tu sais, ça peut changer, là. T'sais, il était prêt à partir au statement, là, je pense, quand il nous a parlé. Tu sais, il s'en allait payer le billet d'avion, là, pour y aller, puis finalement, ça a choqué. Mais si tu me demandes, ben, en même temps, s'il va dans une organisation comme ça, on va quand même le voir, on va juste le voir à TV. À place de le voir live, mais c'est sûr que pour son cheminement, peut-être c'est mieux pour lui, mais en même temps, tu sais, on ne sait pas là, comment ça va se dérouler là, Samouraï, s'ils sont capables de mettre justement contre l'ancien gars du UFC, comme tu dis, ça peut faire résonner les choses un petit peu, puis ça peut ouvrir les yeux à du monde, tu sais.
Alors, naturellement,
ça va faire parler, gros, là, un premier événement de MMA au Québec depuis, je ne sais
ouais,
pas
mais
comment
ça va faire parler, sûr, ça va au faire Québec, jaser. Ça va faire parler au Canada, mais est-ce que ça va faire parler à l'UFC?
Ben, ils vont savoir qu'il y a de quoi qui se passe, je ne peux pas croire, Resti.
Ben, moi, je te dis, mais non, l'UFC, c'est pas à chaque fois qu'il y a une nouvelle promotion au CNL.
Non, mais une fois que l'événement va avoir eu, tu sais, là, ils n'ont peut-être aucune idée que ça va exister, mais tu sais pas comment ça va se dérouler, ça va peut-être faire...
Moi, je peux te dire qu'avec l'UFC se rendre compte qu'il y a une nouvelle promotion qui rentre au Québec, il va falloir qu'il y ait 5-6 événements là, solides. Là,
OK.
D'après moi. Tu T'sais, l'UFC ne sont pas mis au courant de. Puis tu sais, peut-être que si ou pas, il y a quelqu'un pour le contender là, qui a une bonne fiche, puis ils ont à checker un combat de samouraï, ils vont se rendre compte. Ah, oh, il y a une nouvelle, tu sais. Uh-huh. Mais est-ce qu'ils vont savoir okay. ça après le premier événement? Mais non, je suis pas mal sûr okay. à 1000% non, parce que Chris, des nouvelles promotions qui naissent dans. Tu sais, parce que faut-tu dire ça, ça naît au Québec, genre. Fait que nous autres, ça nous intéresse puis tout, mais je peux te garantir que la majorité du monde qui font du MMA en Colombie-Britannique savent peut-être même pas qu'il y a une nouvelle promotion au Québec.
Ah, je suis peut-être trop
ouais, trop hype. Définitivement. Définitivement. Non, trop hype, on peut jamais être trop hype, mais tu sais.
Je suis trop enseveli, ouais, c'est ça. Je suis trop dans mon mainstream.
Mais bref, la personne qui semble, écoute, être sceptique. Même si excité, mais très sceptique, c'est Ken Wong, man. Ken, là, à chaque fois que Daniel va avoir des guerriers, il pose des questions, puis il pose les vraies questions, man. Puis...
Il s'est tellement fait niaiser, calice, que.
Gros, c'est non, mais ben, c'est parce que. Il posait les vraies questions à Stéphane Patry, là.
Ouais.
Il posait les questions à Patry. C'est juste que Patry, il prenait toutes les tabarnaks.
Il arrivait à l'entrevue avec ses 5 questions que Ken avait le droit d'y poser, puis il posait ses 5 questions.
Je pense pas, parce que moi, je l'ai déjà eu sur mon podcast, Stéphane Patry, puis il m'a jamais dit « Tu peux pas me demander ci, tu peux pas me demander ça. » Le gars, c'est juste un des parleurs les plus habiles qu'on a rencontrés dans toute notre vie, puis il est capable de détourner l'attention d'une question, puis t'amener complètement ailleurs avec sa réponse, puis juste ne pas te répondre, peu importe combien de fois tu y poses la même question, puis combien de façon différente.
Il est bon pour être coach des Canadiens. Hein.
Ah, sans aucun doute, mais je pense qu'il aimerait mieux coacher l'Avalanche.
L'Avalanche, ouais.
Mais
je le vois
ça pour dire que non, c'est ça, Stéphane, c'est un nasty talker, puis il était tout capable de ne pas répondre aux questions. Puis Ken, ça fait longtemps qu'il travaillait, tu sais, qu'il recevait Stéphane à son podcast, puis tout, à son émission de radio, puis tout. Fait il s'est un mané. Tu lui poses la question une fois s'il prend tous les chemins possibles pour la contourner. T'as beau lui poser 15 fois, faire la même affaire. Mais tu sais, il pose vraiment les bonnes questions. Puis, écoute, moi, là, l'affaire que je tiens à noter de tout ça, c'est justement la date limite pour signer les contrats. Puis Samouraï dit, parce que je comprends leur point. Dans le fond, leur point à eux, c'est on a signé X nombre d'athlètes, OK? Mm-hmm. Mettons 50 athlètes, 60 athlètes. Ces gens-là ont signé pour 3 combats. Donc, on leur promet, dans nos 6 prochains événements, qui est le calendrier d'un an, pas mal au complet, là, pour Samouraï, que chacun de ces 60 combattants-là vont se battre 3 fois. Fait qu'à un événement, vont sauter un événement, vont se battre à l'événement d'après. Bon. Fait que c'est ça le plan. Mais selon la manière que Daniel en parle un peu, parce que tu as Ken qui a essayé un peu de dire, tu sais, si vous voulez signer Mick Dufort, puis Daniel disait plutôt qu'il s'entendait super bien avec Fernand Lopez, qui avait signé des combattants du gym de Fernand Lopez, puis qu'il y avait peut-être même la possibilité qu'il y ait des combattants de samouraï qui aillent à Arès, tu sais, un moment donné, se battre pour Fernand Lopez. Puis Ken qui demande, ben, tu sais, si vous êtes good avec Fernand Lopez, est-ce que de directement proposer à Mick Dufort, yo, tu te pognes telle date contre Damien Lapillus, ça le convaincrait de signer un contrat? Puis là, Daniel disait, oui, j'en doute pas, mais en tout cas, c'était comme pas vraiment dans les plans de signer Daniel Lapillus en ce moment. Damien Lapillus, en ce moment, à cause du nombre de combattants qu'il avait signé, puis tout. Puis en tout cas, je trouvais que ça avait l'air un peu rigide, leur setup, genre. On a 60 combattants, ils vont se battre un événement. Puis Big, tu sais, je comprends qu'ils veulent favoriser les gens qui ont signé, mais l'affaire au MMA au Québec, c'est que là, présentement, il y a une nouvelle promotion, le monde sont excités. Est-ce que tous ces gens-là qui sont excités vont nécessairement se déplacer pour aller voir le premier événement? Pas mal sûr que le doute de Rimouski, qui est bien hype, viendra pas voir le premier événement à Montréal.
Non, je comprends.
Tu comprends? Fait qu'il faut te vendre les billets, fait qu'il faut que tu fasses le plus gros combat possible disponible, t'as pas le choix. Puis si ce combat-là, c'est Dufort Lapillus, il faut que tu déroges un peu de ta date limite de signature de combat.
Peut-être avoir un petit peu plus de flexibilité.
Oui, puis l'autre affaire, c'est qu'il va arriver des affaires.
Des poulards. Il dit
qu'ils sont prêts à annoncer la carte là, complète du premier événement prochainement.
Mm-hmm. OK. Oh, oui, il m'en a parlé.
Il annonce 10, 15 combats, peu importe combien de combats il annonce. Il va en avoir 5-6 là-dessus qui n'arriveront pas. Il y en a un qui va se blesser, il y en a un autre qui va arriver une telle esti d'affaires. Il y en a un, man, qui va, et Dieu sait quelle esti d'affaires qui peut arriver, c'est du MMA là, qu'on parle. Là. On parle 2 à 3 combats par semaine dans l'UFC, qui est la promotion, qui a le plus d'argent, le plus de ressources, qui est la mieux organisée, qui est la mieux toute, et ça, de loin, par rapport à toute la compétition, même la compétition la plus proche. Puis il arrive quand même de quoi là-bas. Donc, d'être un peu rigide par rapport à sais, signer les nouveaux combattants. Puis je sais pas. Ça va l'air un peu rushé. Je pense qu'il faut que ça soit plus flexible parce qu'il va arriver de quoi? Il va falloir que tu ailles des combattants de dernière minute. Puis oui, tu peux demander à Yann Pellerin de t'en passer un, mais qui est signé avec New Era en ce moment? Absolument fucking personne. Je pense même pas que New Era, honnêtement, va faire du MMA. Même si Yann me dit toujours qu'il va faire du MMA, Yann il a fait 2 ou 3 combats d'MMA à date. Puis c'était entre des combats de boxe. Puis le jour qu'il va me sortir une carte d'MMA au complet, qu'il va me la présenter, ben calé, je le créerai. Mais jusqu'à temps, je le crée pas. Sorry, c'est juste ça qui arrive. Fait que c'est pas Pellerin qui va te dépanner avec un fighter d'MMA, entre toi et moi. À part Yann Pellerin lui-même qui fait son retour à MMA.
Ou le bon Bowlé, là, qui est Chris Moudin.
Ça fait combien de temps qu'il n'y a pas eu d'événement? Ces combats-là sont. Ces contrats-là, ça expire un moment donné, tu comprends? Là, d'après moi, il n'y a plus de combattants qui sont sous contrat TKO, il n'y a plus de combattants qui sont sous contrat New Era.
Ben là, TKO, tabarnak, j'espère pas. Là. Sinon, parle à ton agent ou ton gérant. Il y a de quoi qui va pas bien. Le gars, il attend encore de communiquer.
C'est ça que j'avais à dire. Puis je comprends favoriser les combattants qui sont déjà sous contrat puis qui ont signé. Puis peut-être que je suis en train de parler à travers mon chapeau puis qu'ils ont des backups en cas des fois qu'il arrive de quoi. Puis nanana. Mais.
On sait pas tout.
On le sait pas. Tu comprends?
Mais tu sais, Big, c'est. Puis je te vois parler, puis tu parles avec passion, man, puis ça paraît que t'as hâte que ça revienne, puis tu veux que ça aille bien, man. Tu sais, c'est pas, c'est pas des reproches. Non, mais
Daniel,
je te connais assez.
Il me l'a dit que s'il y avait de quoi, il voulait que j'en parle autant à lui qu'à tout le monde. Mm-hmm. Puis c'est ça que je vais faire, puis c'est ça que je vais continuer de faire. Là, ça changera pas. Peu importe si mon rôle à jouer dans le futur. Par rapport à Samouraï MMA, que ce soit que j'aille reporter les événements, que je fasse des vlogs, que peu importe si je vais dire ce que je pense, puis ce que je pense qui est le mieux, ça je vais continuer de le faire. J'ai toujours
fait. Je pense que c'est ça qui changera pas. Aussi, mais ça, mais c'est ça, c'est ce que je veux dire, c'est qui commence, que ça aille bien, man.
C'est qui commence, puis tu sais, je l'entends là, dans le milieu. Autant il y a plein de partisans qui sont hype, autant il y a plein de monde dans le milieu qui sont sceptiques. Parce que Daniel n'a aucune expérience là-dedans. Mm-hmm. Puis c'est vrai qu'il n'y a pas d'expérience là-dedans. Puis c'est le monde qui a un peu plus d'expérience. Puis je suis pas, écoute, Ken Wong a 200 fois plus d'expérience que moi. Puis peut-être que moi, si j'étais Ken Wong, puis que j'avais vu tout le nombre de promotions qui sont nettes, qui sont mortes pas longtemps après au Québec, peut-être que je serais plus sceptique que je le suis en ce moment. Moi, je te dirais que j'ai quand même un regard optimiste sur tout en général. Fait que je suis optimiste par rapport à
ce qu'on voit là, c'est dur de pas le light.
Mais s'il y a quelque chose que je veux dire, ça, tu pourrais être plus flexible à ce niveau-là, je veux le mentionner. Parce que Dieu sait toute la merde qui va arriver, puis le monde aimait ça, dire, Patrice ça. Mais moi, je le sais pour un fait qu'il y a des cartes de TKO, que toutes les blessures qui sont arrivées sont arrivées pour vrai. Patrice n'était pas là à inventer des blessures à personne. Il a même caché la blessure de des gens jusqu'à la semaine du combat en le faisant continuer à vendre des billets pour la carte de Gatineau. Un gars qui devait se battre contre Adam Hunter. On ne le nommerait pas, mais c'est Papa Jew. Et puis, il n'a jamais menti sur l'annulation d'un combat. Des blessures, il y en a eu. Il va en avoir à Samouraï.
Celle-là, cette carte-là, gros.
Il y a aussi Daniel qui est très confiant de pouvoir amener tous les combattants internationaux pour le premier événement. Pour ma part, j'ai mes réserves là-dessus encore. Peut-être qu'il y a plus d'infos que moi, mais je ne le sais pas. C'est sketch. Genre, j'ai l'impression que tout ce qui va être voyage international, ça va être ce qui va être le plus long à revenir. Puis je ne parle pas entre le Canada et les États-Unis, ça va être le plus facile à rétablir. Mais tu sais, même, ça ne me surprendrait pas que dans un an d'ici, quand on n'a plus aucune restriction, qu'il y a 21 273 personnes, pas de masque dans le Centre Bell, ça ne me surprendrait pas que ça soit encore compliqué de voyager.
Mais Chris, je pense que certaines places en Europe, présentement, tu peux y aller là, si tu es vacciné.
Oui, il y a des places que oui, il y a des places que non. Il y a des pays que, gros, il y a des pays qui n'ont même pas l'argent pour acheter des vaccins pour leur population.
Là, c'est sûr que les fighters européens, s'ils ont une quarantaine à faire.
De 14 jours en arrivant ici.
À l'hôtel, ça commence à être fatigant. Mais tu sais, pense à ça. Là.
Pour pas ne pas t'entraîner pendant 2 semaines.
M'embarquer dans le COVID, mais tu sais, les écoles vont recommencer au mois de septembre. Tu sais, la vraie vie devrait recommencer, là, rendu au mois de septembre. Fait que je verrais pas pourquoi que là, on n'aurait pas le droit. Moi, je pense plus que le trouble qu'on va avoir, ça va être avec la calice de régie, man, de faire un événement par esti puis de se faire voler le spot par la boxe, man, parce que ça rapporte plus d'argent.
Quand ils enlèvent la quarantaine à la régie va pouvoir présenter plus qu'un événement par mois.
Ouais, ils vont-tu le vouloir, ça?
Ben, garde-le, man. Ça, moi, j'ai aucun pouvoir
c'est
là-dessus.
Moi, c'est eux autres qui qui me font plus peur.
C'est quoi, Big?
Fédéral, là, Chris, il les a laissés rentrer pendant je ne sais pas combien de temps au début de la pandémie. Là, ça va être quoi de les faire rentrer à la fin? On sait bien, là, Justin, nous autres, il est international.
Ouais, non, Justin, c'est un grand membre de l'international. Mais là, avant qu'on parle de la carte de l'UFC qu'il y a eu hier, on parlait tantôt même de contrats, puis de contrats exclusifs, de gens toujours sous contrat qui ont une opportunité ailleurs puis qui se font sauvagement bloquer par un promoteur. Puis c'est une nouvelle de la semaine passée, puis on en parle encore cette semaine. Puis je voulais pas en parler la semaine passée parce que je trouve que c'est une news de merde. Mais on en parle encore cette semaine, fait qu'on va en parler. Puis c'est Dana, man, qui tue le combat entre GSP et De La Hoya. Parce que Thriller ont perdu Jake Paul, fait que le gros big money grab de Thriller était un combat de boxe entre GSP et Oscar De La Hoya. Et GSP est toujours sous contrat avec l'UFC parce que oui, quand tu prends ta retraite de l'UFC, s'il reste des combats à disputer à ton contrat, tu es encore un combattant de l'UFC puis ils vont jamais jeter ton contrat puis ils vont jamais mettre fin à ton contrat. Puis si tu te demandes pourquoi, ben c'est exactement pour ça. Quand tu as une opportunité d'aller faire de la business ailleurs, ils vont te bloquer parce que c'est les seuls gens qui ont le droit de profiter de ton image.
Mais ouais, man, le gros GSP a mis l'UFC sur la map, a fait remplir les coffres, mon gars, comme jamais. Il demande la permission. Moi, honnêtement, je veux pas voir ce combat-là, mais il demande la permission. Gros, on s'entend-tu que si c'est pas De La Hoya, peut-être que Dana y pense, mais aussitôt qu'il a vu De La Hoya, il a fait fuck you, mon corlisse. C'est sûr
si
que c'est ça.
Si c'est pas De La Hoya, Dana pense à discuter avec le promoteur pour.
Ben oui.
C'est d'avoir un pourcentage
ben
de
oui,
faire de l'argent.
Ben oui. Là, vu que c'est
de
la OIA.
Quand le est sorti, elle dit, moi, je ne vais pas en faire avec lui, moi,
ben non, puis je le comprends, là. En moi, puis toi, Calis. Le gars, même depuis 2021, il a fait 6 des intoxications. Cocaine isn't cheap, hein?
Non.
On va se dire, là.
Non, définitivement.
Puis là, il dit que là, le combat, son prochain combat, c'est ça qui fait en sorte qu'il ne retombe pas dans le sac puis tout. Gros, quand tu vas empocher les millions après, tu sais quoi tu vas faire? C'est quoi tu vas faire?
Mais ils vont me dire que le gars, il ne s'est pas acheté minimum un cadeau de poudre pour son after party, là.
Hey, gros, arrête, là.
Minimum.
Il y a un avion qui va débarquer, man.
Bricks.
Ben, il va faire comme... Non, en tout cas, je ne partirai pas ces détails.
Oh, mais c'est ça. Cool. Mais Dana, c'est un esti de pas pareil, man.
Ah, c'est un rat. C'est un rat. Je l'aime, Dana, mais c'est un esti de rat. Pas en business,
je l'aime pas, man. Je l'aime, man.
Il est drôle. Ben, je l'aime, moi. C'est un grand mot, je l'aime. Il est divertissant.
Non, ben, je vais toujours écouter son post-fight interview en espérant qu'il envoie chier quelqu'un. Puis quand il envoie chier quelqu'un, il m'a rire. Puis après, je vais me dire... Ouais, mais dans le fond, c'est vraiment un esti de rat puis une personne de merde, lui, puis je vais continuer à être pas en accord avec tout le reste de tout ce qu'il dit, là.
Ouais, ben, Chris, il me donne des cartes, là, toi, fin de semaine, le callis, man, fait que...
Ah, oh, ben oui, la carte d'hier, mon gars, t'étais hype, t'avoues, hein?
Ah, j'étais... Hier, j'ai... Tu sais, d'habitude, le... ben là, premièrement, c'est...
J'ai écouté le hockey, puis j'ai écouté l'UFC sur mute. J'ai réécouté les vieux combats que je voulais... Tu sais, j'ai eu le temps de voir les trois derniers combats, j'ai eu le temps de les voir. Fait qu'à matin, j'ai réécouté Hermanson Shabazian, j'ai réécouté le combat de Felicia, puis je me suis dit que j'avais pas manqué grand-chose, finalement. Puis j'avais vu une coupe de prelim là, avant jusqu'à Koulibau, là. Fait que j'ai... Non, Silva, je l'ai vu, le code d'une minute.
Hey, Koulibau, je peux pas croire que Charles ait fait une nulle avec ce gars-là. Puis je suis sûr que...
Tu l'as pas trouvé bon?
Ben, correct, là, mais Charles est meilleur que lui. Puis je suis sûr que Charles a regardé le fight hier. Puis quand ils ont fait le petit montage de Koulibau qui a fait un draw contre Charles Jourdain, je suis sûr que Charles devait se dire « tabarnak ». Voyons donc, j'ai fait une nulle avec ce gars-là.
Non, c'est sûr que c'est un draw qui est pas le fun à se rappeler là, pour Charles. Parce qu'écoute, ben,
c'est gros Charles.
Je pense que Josh Koulibau, il est skilled, man.
Il est bon, il est bon. Mais gros, il est moins bon que Rojo.
Mais il est pas...
Moi, j'ai...
J'aimerais ça voir cette fight-là, honnêtement.
Ben, on va peut-être la voir, mec.
Je pense que Rojo, ben là, il se bat contre... Est-ce contre Kevin... Il se bat genre contre Kevin Kroom, Rojo.
Ouais, il se bat en fin de semaine, je pense.
Aïe, man, ça serait gros. Je vais tellement root pour lui, là, à son
point. Ouais, moi, ben, je l'aime bien, man.
Ah ouais. Oh, absolument.
Je veux voir le T-Rex célébration. Je voulais pas l'avoir contre Charles, là. Mais
non,
le gars, c'est un tough, là.
Mais pour vrai, moi, tout Koulibau, je vote bien gros pour lui, là, après le combat pour Charles. Puis j'aime. C'est parce que je vais te dire, je vais toujours avoir un penchant pour le combattant qui est bon, mais que s'il ne donne pas son 110%, il n'a aucune chance de gagner aucun combat dans l'UFC parce qu'il est juste très peu athlétique. Genre. Ouais, tu as vu le premier round de Koulibaly, il a eu de la misère, pas parce que l'autre c'est un meilleur lutteur que lui, parce que le chinois c'est une petite boule de muscle et d'explosion, puis il a juste genre power through ses takedowns, puis il a tellement power through tous ses takedowns qu'il n'a pas vraiment réussi, qu'à la fin du premier round, il n'y avait plus de jus pour le restant du combat. Puis tu sais, Koulibaly a pas mal style sur lui, là, je te dirais, le restant du combat. C'est sûr qu'il pourrait y aller un peu plus en combinaison, parce qu'à part un 1-2, il lance pas grand-chose, il est plus... Oh, une bonne strike, il admire un peu son travail là, il a moyen de se faire counter puis tout, mais il a un bon petit style fun, il travaille fort. Il est cool, Josh Koulibaly. À chaque fois qu'il va pogner.
Il va être un journeyman, là.
Ouais, il va pogner quelqu'un de moindrement athlétique, il va se faire décoller bien raide, mais il va faire comme Jourdain, man. Il va rendre ça le fun. Puis on s'entend que Charles, la raison du draw, c'est une expérience là.
Ouais. Hey, gros, tu
je dirais un peu le fight. Je dirais un peu le fight IQ parce que Charles, il a toujours. Avant, il nous en avait parlé. Je ne sais pas si tu étais là cette fois-là ou c'est une fois que je te disais avec. Mais que, il commençait à.
Il avait changé sa mentalité.
Ça, parce que Charles m'a toujours dit le fight IQ, c'est de la petite bullshit. Moi, je vais là, j'essaie d'arracher des calices de tête. Puis,
mais c'est à partir de là qu'il a changé son style, Charles aussi.
Oui, parce que gros, il s'est passé avec un fight IQ complètement merdique dans ce combat-là. Puis ça a donné un draw dans un combat qu'il aurait dû gagner. Là.
Exactement. Ouais, celle-là elle l'a pincé solide, je pense.
Oui, ça c'est bien gros.
Ça paye
c'est comme,
aussi.
Oui, il la paye aussi, mais c'est parce que quand tu perds contre André Fili, tu peux dire, tu sais, le gars, il est vraiment très bon, c'est un vétéran, il a immensément plus d'expérience, immensément plus de skills, parce que ça fait plus d'années qu'il s'en. T'sais, Big Charles Jourdain a commencé à se battre pro. Je pense que Fili était déjà dans l'UFC. Là.
J'ai vu un combat de Fili, v'là pas long, je ne me rappelle plus contre qui, puis j'étais là, ah, il était déjà là, tu sais, il y avait encore les commanditaires, ses shorts, puis tout, là.
Oui, exactement. Philly, c'est un vieux de la vieille. Là.
Chris, man.
Fait que, tu sais, Charles, il était outmatch dans tous les aspects de cette fight-là, puis il a rendu ça serré comme c'était. Tout comme Desmond Green, que Charles était outmatch dans presque tous les aspects de cette fight-là, parce que l'autre était gigantesque à côté de lui. Puis,
hey, man, quand tu penses qu'il s'est battu contre Desmond Green,
fighter, man, à trois négatif, semaines
après.
Là.
Après un 5 rounds contre fucking Lapillus, là.
Ouais, exactement.
Alors, Charles, hein, quand tu repenses à ça, là. À Rochester.
Ça pince pas trop, genre.
Non.
Mais un draw contre Josh Koulibaly, qui était un rebound fight, qui était favori à 4 contre 1, qui était supposé de le démonter selon, genre, toute analyse sensée, là. C'est pas ça que Charles voulait dans ce combat-là. C'est comme le point bas de sa carrière UFC, même si c'est pas un draw.
Mais ça a été bon, hein? Ça a été bon
vraiment.
Pour lui.
Vraiment,
souvent, on dit qu'une défaite peut remonter. C'est plate, là, on va se le dire, mais regarde pour Charles les performances qu'il a livrées après. Ben, puis, c'est-tu que j'ai hâte au mois d'août?
Yep, mais parlons du main event un peu.
Calis, Fontman, il m'a pas fait perdre d'argent, là, mais je pensais qu'elle allait le knocker soit au deuxième ou au troisième. Charlotte à Garbrandt qui a retrouvé son menton, il faut le dire.
Ouais, ben gros, je pense juste que Cody Garbrandt. Quand il va pas balls to the walls, il a un bon chin, là, c'est tout. Je pense pas que c'est Cody no chin. Je pense juste que quand il est trop agressif, il se calisse le menton dans toutes sortes de places qu'il faut pas pendant qu'il est hors d'équilibre, overextend, nanana. Puis tu vas toujours te faire dropper dans ces situations.
Est-ce qu'on va revoir une performance de Cody Garbrandt comme qu'il a fait contre Dom Cruz ou TJ le cassé?
Mec, c'est fini ce temps-là.
C'est fini, hein?
Fini ce temps-là.
Mec. Hey, quelle performance comme Doom Cruise, man. Mon boy Doom Cruise, est-ce que je pensais qu'elle allait passer Cody? Puis Cody, ce soir-là, là, on va se le dire, là, tabarnak, c'était légendaire. Puis écoute, on va se le dire aussi, là, les trois KO, deux contre TJ, puis l'autre, c'est Pedro Munhoz.
Pedro Munhoz, ça allait toujours finir de même. Là.
Ouais.
Mais c'est hier.
Là, t'as eu le petit refresh de Asansar, mais qui gagnait pas vraiment le combat non plus. Puis hier, ben écoute, Rob Fondman, les gars de fucking New England Cartel sont nice, man. Le jab, là, man, ça sort comme un piston, mon gars. Puis après ça, ben, c'est facile de rentrer les autres mains, là, mais.
Il a tellement frustré Garbrandt avec son jab que Garbrandt prenait même plus la peine de penser qu'il y avait un autre strike qui allait venir en arrière. Puis chaque fois, il popait le jab une couple de fois. Puis presque tous les strikes passaient. Là. Presque tous les autres strikes qui n'étaient pas un jab passaient parce que l'autre était tellement fixé sur le jab. Puis tu sais, il faut donner le crédit, je pense, à Cody Garbrandt. Que, tu l'as vu dans sa face après un round et demi qu'il n'était pas content. Là.
Il savait que. Il allait survivre le restant des rounds, mais il n'allait pas gagner cette fight.
Ouais, mais il n'a jamais eu la coche qui a fait genre, OK, fuck it, balls to the wall, ce qui est le moment qu'il se fait knocker. Mm-hmm. Fait que tu sais, ça, c'est une amélioration dans son cas. C'est bon de voir ça, mais ça fait de lui un moins bon fighter, un peu, je pense.
Il manque le petit edge. C'est ça qui arrive, hein. On dirait que ce petit step back-là fait en sorte qu'il manque la petite étincelle qui faisait Cody Garbrandt. Mais le style de Cody Garbrandt, c'est do or die, là.
Ça, c'est parce que c'est un combattant émotif. Puis là, ils ont essayé d'enlever l'émotion dedans son... Puis peut-être qu'il est tellement talentueux puis naturel que là, il est en learning period puis ça va juste une mauvaise phase puis il va accumuler des défaites pas belles de son record. Puis que là, dans une coupe de combat, ça va recliquer puis ça va être le tout nouveau Cody Garbrandt qui va faire une run puis qui va être excellent. Tu sais, on sait jamais ce qui peut arriver en MMA. Le check Charles Oliveira puis Jan Blachowicz puis Matt Serra, là, tu sais. Mais...
Matt Serra, fuck! Elle fait mais... mal, celle-là.
Ouais, je sais, elle fait je sais. Mal. Mais présentement, ils ont enlevé l'émotion dedans Cody Garbrandt, puis autant est-ce que c'est ce qui l'a fait genre devenir mauvais,
mais c'est ça
c'est ce qui l'a rendu très bon dans ses meilleurs moments.
Il est dans un émotif, circle de tough fait à gérer,
je sais
mais
pas,
comme
je sais
tu
pas
dis.
Trop quoi faire avec ce dude-là en ce moment-là.
On y souhaite, man, parce que tu sais, Cody, je regardais, man, tu sais, ça a l'air d'être un bon père de famille, tu sais, il a pas eu de père, puis tout le gros, il a eu une vie quand même de merde. Je sais que ça a l'air d'être un esti colérique, puis. Des fois, ça se demandait si c'est pas un batteur de femmes. Mais gros, tu sais, pour qu'est-ce qu'il a fait avec. Il a l'air de ça, là, on va se le dire.
C'est une huge accusation. Je pense que c'est un... voulais pas le dire, mais.
Il a l'air de ça, le gros, là, on va se le dire. Mais tu sais, qu'est-ce qu'il a fait avec le petit gars, là, qui était bien, bien malade. Je pense que c'est une bonne personne au fond de lui. Puis, j'y souhaite de retrouver ses moyens, man, parce que, calice, c'est pas nice d'avoir un former champ. Tu sais, il était champion, lui-là. Là.
Il a battu un struggling
là,
top
là, il a l'air de... Tu sais, puis gros, dans cette division-là, 135 livres, là, c'est pas long de faire kick-out, man, du top 10, top 15. Là, gros, les gars sont tellement des killers rendus là que...
Et en plus, l'affaire, c'est que je comprends pas le ranking de l'UFC, OK?
Ben là,
ça, parce que là, hier, ça, c'est pas nouveau, là, mais hier, ça m'a vraiment semblé, genre, pire que d'habitude. Parce que là, il était 3 là,
contre 4.
3 contre 4, 3 contre 4.
Okay, ça avait l'air d'un 3 contre 12.
Fait que, mettons que tu dis, OK, Rob Font s'est vraiment amélioré depuis ses défaites contre Lineker puis contre Asunsao. Je peux comprendre, mais sa plus récente défaite avant sa win streak n'est pas si vieille que ça. Puis c'est contre Pedro Munhoz. Mm-hmm. Puis je vois pas comment tu mets Pedro Munhoz plus bas que Rob Font. Fait qu'à la limite, tu mets Pedro Munhoz en bas de Rob Font. Mais Pedro Munhoz vient de perdre contre Edgar. Fait qu'Edgar doit être devant Pedro Munhoz. Edgar a perdu 314 fois contre José Aldo. Fait que José Aldo doit être en avant de tous eux autres. Dominic Cruz. Comment tu rankes Dominic Cruz plus bas que tous ces gens-là? Tu rankes en haut. Après, il te reste Dillashaw qu'eux autres, ils ont enlevé, mais quand ils vont le remettre, ils sont mieux de le mettre en haut de tous eux autres. Ah, il te reste Peter Yan. Fait que comment c'est possible que Rob Font soit le troisième meilleur bantamweight au monde selon tes rankings quand Munhoz devrait être devant lui, Edgar devrait être devant lui, Aldo devrait être devant lui, Cruz devrait être devant lui, Dillashaw devrait être devant lui, Sandhagen, que j'ai pas parlé, devrait être devant lui.
Hey, puis, les noms
Peter Yan devrait être devant lui.
T'as même pas nommé Aljo là-dedans, même en plus.
Ben Aljo, il est champion, fait qu'on n'en parle pas, là. Mais,
ah, oui, il est champion? Là-dessus.
Ben, ça a l'air.
Ah, OK. OK.
Hey, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais c'était pas le fight de Hasbulla, man, cette fin de semaine. Nous, on n'a pas eu de nouvelles.
C'est qui?
Le petit.
Eh non, c'est pas. Ben non.
Le petit mec de 18 ans, là. Le petit mec de 18 ans.
Jake Paul, mais tu viens de te faire takeover solide, mon gars. Jake Paul, Jake Paul, c'est du passé, là.
Moi, je suis sur Twitter all day juste pour voir du nouveau
contenu. C'est incroyable, le gros. Mais les gars, là, ils ont pogné le marketing à tabarnak. Ils ont vu que ça a pogné des vidéos qui sortent à gauche et à droite, man. T'imagines-tu comment ils font, man, avec les clics et tout? Le petit gars, il a 18 ans, man. C'est ça que tu me disais?
Il a genre les 18 ans, puis je pense que l'autre qui a l'air un peu moins populaire, là, avec le petit avec les cheveux noirs, là, il a genre 17 ans. Mais les deux, c'est genre des TikTok stars en Russie, puis ils ont genre 170 000 abonnés sur Instagram.
Ça,
c'est
man, incompréhensible. Tu me fais un shit show avec ça au plus calice, là.
Oui, non, moi, gros, cette fight-là.
Tu me mets ça sur une carte de M1, là, avec une coupe de combat de chevalier.
Non,
là,
non,
tu me mets
ça en pay-per-view, puis si je suis pas capable de le streamer, je vais te le payer en argent russe.
En Ruby, eux autres, je pense.
Exactement, je sais pas trop comment ça marche, mais.
Ouais, puis eux autres, c'est vrai que si tu le streams, ils vont venir te chercher chez vous.
Ouais, j'ai pas.
C'est Kadyrov qui va débarquer.
Ah ouais, ça c'est une autre affaire qu'on n'a pas parlé sur le podcast, mais qui est une affaire qui me fait genre un peu peur, mais très plaisir, man.
Ah ouais?
C'est de voir ça... à quel point Ramzan Kadyrov est rendu qui discabibe, genre sévère, puis qui envoie quasiment Hamzat après lui, puis tout. Puis c'est bon à savoir que dans le fond, ça fait juste nous prouver à quel point cette relation-là était forcée, puis que Khabib, tu sais, gros.
Hey, mais t'imagines-tu s'il arrive à quoi? Il répond
pas
à Khabib,
ce gars-là, man. Ouais, je penserais pas que Kadyrov soit prêt d'aller aussi loin que ça.
On le sait tout que ça va venir de là, ça viendra pas de
plus. Oh, ouais, puis ça, c'est une des personnes les plus populaires
si
en
Poutine
Russie,
se fait
là, Khabib.
Ouais, je sais, mais si Poutine se fait renverser, je pense pas que
ça
va arriver.
Se fera jamais renverser. Kadyrov se fera jamais renverser. Et il est président de la Tchétchénie depuis que son père s'est fait tuer.
Ah, oh, puis c'est peut-être lui qui l'a tué pour avoir le poste plus vite.
Oh, et puis c'est probablement son enfant à lui qui va le tuer, mais qui sera assez vieux pour prendre sa place.
C'est de famille en famille.
Oh, et c'est ça. Fait que tu comprends que je suis pas trop stressé pour Kadyrov.
Tu sais, t'as les Mayweather, puis t'as les Kadyrov, là.
Ouais. Je pense pas qu'il aille aussi loin à, genre, faire tuer Khabib, qui est, genre, la personnalité russe la plus importante, ou presque, là.
Ben, c'est encore drôle, man. Gros, pas, tu sais, si ça arrive, ça va me faire capoter, mais ça me surprendrait pas.
Non, je veux juste dire que Abdulmanap est au paradis, puis je pense qu'il est bien content de voir ça. Parce que je suis pas mal sûr que c'était la première personne qui était pas content de voir Kadyrov crisser ses pieds dans son gym puis commencer à investir à gauche pas à droite clout, là.
Abdulmanap, je suis sûr qu'il a déjà manigancé pour peut-être essayer de l'effacer de la carte, ce style-là.
Mais ouais.
C'est un papé, là, le père Khabib, on va se le dire, là.
Ouais, c'est un vrai de vrai. Kadyrov, man. Kadyrov, c'est le genre de déchet humain duquel on se débarrassera malheureusement jamais.
Ouais, c'est le déchet du 21e siècle.
Ah oh, ouais, le gros déchet. Man, j'engagerais Ali Abdelaziz garder mes enfants avant lui. Là.
Et connaissant, ça, c'est
alors, des... Ali Abdelaziz, c'est une merde. Là, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est un mauvais...
Ça a fait mal, ça, mais une question de dire.
Ouais, non, tout le monde s'entend pour dire qu'Ali Abdelaziz, c'est une mauvaise personne, mais... Je pense que tout le monde s'entend pour dire qu'à côté
de Ramzan Kadyrov, c'est un ange. C'est un next level. Là.
Oh, ouais.
Je suis sûr qu'Ali a peur de Kadyrov.
Parlons du co-main event, puisqu'on essaie de trouver tous les moyens de dévier du sujet de cette carte-là. Là.
Comment qu'elle fait?
C'était triste un peu, hein, parce qu'on était là.
Comment qu'elle fait,
je pense que Yan Shannon, elle va pouvoir avoir un style assez solide pour Carl Esparza l'a pogné.
La prochaine Zangoulé.
Elle l'a 18. Puis à l'autre round, elle l'a pogné. Puis elle l'a tiqué.
Elle s'est fait une bouche dans le plein milieu du front, mon gars. Oh. C'était-tu beau comme coup? Asti que ça slice des coudes, hein? Chris, que ça. C'est impardonnable. Hier, là, on va.
Chris de soirée sanglante. Hier, la carte était pleine à la mort.
Mais écoute, je veux pas. Je veux pas bâcher, je veux dire comme Dominique Ducharme dirait, je veux pas continuer de taper sur le clou puis qu'il crochit plus puis qu'il revienne plus drette, là. Quel commentaire de Dominique. Mais ceux qui disaient que c'était la prochaine Wiley Zhang, excusez-moi, regardez peut-être pas le dernier combat de Wiley, là, mais regardez les autres combats d'avance, surtout celui-là de Joanna que j'ai revu passer, là. On est, Miss Yann a des croûtes à manger. Puis Carla, Monster Cookie ou Cookie Monster, je sais pas comment qu'elle fait, man. Ça, c'est le genre de fille, là, puis qui, tu sais, il va avoir le combat contre Rose. Pas personne va lui donner une calisse de chance. Puis elle va take down Rose, puis elle va la crucifier, puis elle va la finir à coup de coude.
Imagine que ça serait une sad story que les deux fois que Rose a genre,
ah non!
Deux des fois que Rose a pèse
c'est contre Carla. Non, je souhaite pas, là. Je souhaite que Rose garde son titre un petit peu. Histoire. Mais Carla, je pense qu'elle mérite.
Ben oui.
Elle mérite le title shot, non?
Ah oh, ouais, t'as pas le choix, là.
Ça serait quand même, tu sais, un cool story, man, qu'elle aille récupérer la belt. Tu sais, c'est la première holder de la belt à 115, on s'en rappelle, avant que Joanna, man, que je commence à la surnommer la mitraillette polonaise. Chris Carla, c'était la championne. Fait que si c'est d'avoir le fight, d'avoir la chance de récupérer sa belt, puis peut-être de boucler la boucle, ça pourrait être cool pour elle. Elle le mérite.
Puis qu'est-ce qu'on pense de Felicia Spencer, man?
Colis, moi, elle, hier, je l'avais mis en soumission round 2, j'ai été un petit peu déçu.
Puis, genre, elle puis Claudio Silva, c'était genre mes deux locks à la carte, là.
Puis c'était pas la Felicia qu'on a vue contre Nunes puis Cyborg. Hey, rappelez-vous, cette fille-là a fait 10 rounds avec deux complètes tueuses. Hier, yeah, man, Norma Dumont, Chris. Ça fait mal, là. Ça fait mal à la division, hein. Parce que, tu sais, Felicia, c'est un peu comme la gatekeeper de cette division-là. Tu sais, elle battait une fille ST ou deux par année. Puis, OK, ben, on a. Mais là, Norma Dumont, man, tu sais, ça fait mal.
Gros, Felicia, là, si c'est pas son dernier combat de son contrat, je serais pas sûr qu'elle se fasse cut, là.
Ouais, c'est hier, c'était vraiment pas chic. C'était vraiment, vraiment, vraiment.
Je ne suis pas surpris qu'elle se fasse cut puis que Dumont, elle essaie de retourner à 135. Elle est revenue à 145 parce que son combat à 135 est arrivé à genre 139, là, ça la balance. Là, ça
ouais, mais big, là, elle est gros. C'est un petit frame de madame, ça, là.
Je sais bien, mais regarde, si t'es Norma Dumont, tu le sais qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Tu essaies de mourir en faisant 135 ou tu vas te battre ailleurs parce que d'après moi, 145, il va rester une personne dans cette division-là. Ça va être Amanda Nunes. Puis ils vont demander une 135 random une fois de temps en temps. Tant que tu te couper du livre de moi et de te battre pour l'autre belt.
Tant que Nunes veut se battre.
Exactement. Ouais. Que, d'après moi, Felicia, je pense que je serais pas surpris qu'elle vienne de faire sa carrière UFC, man. Oh, et ben, j'aimerais
savoir. À 145, il y en a des noms. Elle va repogner Cyborg, tu sais.
Ouais, Julia, alors, ben, de moi, Felicia contre Julia Budd, là, c'est le combat que je veux voir depuis des années, mais on dirait que je suis moins hype pour ce combat-là après l'avoir vu perdre de même contre Dumont. Que, oui, c'était serré, mais j'ai clairement vu 2-1 pour Norma dans ce combat-là. Là. Je donnais les deux premiers à Dumont, je donnais le troisième à Felicia, puis.
Il n'y avait aucun autre gars dans ma tête.
Non. Maintenant, Hermanson Shabazian.
Qu'est-ce qui se passe avec Edmund, mon gars?
Big, son coach, man.
Ah ouais, on le sait, mais. Edmund. Jack Hermanson, il est malade, le gros. Je l'adore,
coach,
ce gars-là.
Edmund. Ouais, moi, tout, je l'adore.
Puis après, qu'il demande à Kikardot, Ben Askren, puis Chase Hooper, pour savoir s'il peut être dans la Askren family. Il y a 3-4 petites boucles, là. Il est là, il essaie de s'y tourner. Des fins de round, man, dévastateur. Edmund Shabazian, mon gars, le. Il... Fuck. Mais, on est-tu tant surpris? C'est... On créerait voir l'histoire de Ronda Rousey, mais avec un gars. Là. Le gars, il est hype, mon gars, il s'est juste pas rendu à la belt. Puis là, ben, on voit, il se fait exposer, man. Avec les tops.
Ouais, non, définitivement.
Head movement. Head movement.
Ah, puis gros, tu veux, il gueulait après en arménien dans le coin, man. Ah. 6 ou 3, 7. J'aurais aimé savoir ce qu'il dit parce que quand on lisse, man, ce coach-là, ça fait pitié. Puis tant qu'il va y avoir du monde qui va sortir de ce gym-là, puis qu'ils vont pas s'en aller de ce gym-là, je vais être sûr qu'ils vont être capables d'avoir une bonne rise, là, d'arriver dans le top 10, top 15, ouais. Sommaire, mais arriver là contre les meilleurs au monde quand c'est.
Ils sont situés où, eux autres?
C'est à Glendale, en Californie, je pense que c'est dans
c'est
le.
C'est quoi le nom du gym?
Glendale Fight Club.
Ok.
Paul Felder, man, et Alan Jobin, dans la même semaine, deux des action fighters les plus nice qu'on a eu des 5-10 dernières années. Je pense pas que personne ne va me dire le contraire. Ils ont tous deux annoncé leur retraite.
Écoute, Felder, ben Alan Jobin, je suis pas tant surpris. Felder, oui, puis non. Tu sais, Alan Jobin, c'est un action fighter, t'as raison. C'est sûr que t'allais avoir un bon fight. Mais Chris Paul Felder, ça va laisser un pas mal plus gros trou. Là. Il y a un spot à pogner dans la division à Star. Puis Chris, je sais pas si tu peux le mettre Hall of Famer, Paul Felder, mais.
Non, tu peux pas.
Non,
je pense pas.
Mais en tout cas, c'est un gars, man, que Chris, tu le voyais sur une carte et t'étais sûr d'avoir un bon fight là.
Ben oui, Paul Felder, man.
Il est très bon commentateur, il s'en allait. On va le voir à TV encore, fait que c'est cool. J'aime ça voir des gars, man, se retirer au montagne. Ouais. C'est surtout ça, le gros. Je me demande
à quel point. Ouais, c'est nice, mais c'est parce que Felder, j'ai un feeling bizarre par rapport à sa retraite un peu.
Tu penses qu'il le prend parce qu'il sait qu'il sera pas capable d'aller chercher la belle?
Non, mais c'est parce qu'il se fait toujours call-out.
Ah, je le sais. Ah, puis c'est pas fini, ça, là.
Il se fait toujours call-out, puis j'ai l'impression que, tu sais, Paul Felder, il est tellement, genre, moi, je viens de Philly, je suis pas une bitch, genre.
Ah.
Il sent un peu comme une bitch de dire non à tous ces gars-là.
À Makhachev.
Parce que, ouais, Makhachev, c'est qui le gars qui le call out à la TV, basically, Ojo? C'est pas Giga Chikadze ou quelqu'un
d'autre? Ouais, on a fait la même, puis gros, à moi, pis toi, je suis sûr que ça ne tente pas trop, là.
Non, non, c'est ça, qu'ils sont même pas dans la même division, puis je suis sûr qu'il veut pas le fight anyway, là.
Ouais.
Mais il y a tellement de monde qui le call out, puis tu sais, Felder étant un gars qui est juste, qui est fair, il sait qu'il pogne un spot dans la division pour des gens, tu sais, qui pourraient move up, puis qui. T'sais, lui, justement, il y a quelqu'un qui va prendre sa place puis qui va devenir la personne que les gens vont call out. Puis je pense qu'il se sentait mal de toujours se faire call out puis d'un peu toujours comme refuser ces call out-là. Je pense pas que c'est dans sa gimmick à Paul Felder de dire non. T'sais. C'est le genre de gars qui se pogne un fight assis à quelques jours de préavis contre Dos Anjos parce que la merde est pognée, genre. Fait que je pense que c'était pas dans sa gimmick de genre refuser les fights puis tout. Puis à force de se faire call out, il a juste dit garde. Je vais annoncer ma retraite, comme ça le monde va arrêter de me call out au Pufeli, puis ils vont pouvoir call out d'autres gens, puis je vais arrêter d'être vu comme un gars qui prend un spot dans la division mais qui se bat pas. Là.
Ouais, je pense que c'est clairement ça, puis c'est correct. C'est correct.
Yup. Puis un autre qui devrait prendre sa retraite, ça n'a pas été confirmé, mais il sera certainement plus dans l'UFC parce qu'il a terminé son contrat. C'est Jack Harry Souza.
Ouais. Ah, écoute, c'est correct, là.
C'est correct. Je trouve ça place, c'est un de mes combattants préférés ever, man. Mais il m'a tellement frustré les dernières années avec son style, genre. Puis là, des dernières années, c'est juste triste.
C'était plus Jack Harry, c'était Ronaldo Souza à la fin.
Ouais,
c'est
exactement.
Ça, j'aime dire. Puis le crocodile, il était plus là, là.
Non, c'est ça. Mais des fois, même au sol, il passait du temps en dessous au sol sans se lever ou take down un gars, puis il était plus autant agressif.
Bon, de voir Kevin Holland, là, son dos le knocké, là, tu sais, là, je pense que ça, c'était pas mal le champ des signes. C'est
ouais, rassuré de la fois. Voir André Mooney avoir du succès dans ses submission attempts contre lui. Puis, oui, il a pété le bras, puis Jack Harry a jamais tapé, mais tu sais,
on s'attendait à rien de moins que Jack Harry, là.
Ouais, mais tu sais, quand Jack Harry se fait soumettre, il est peut-être temps, là. Parce que t'es le meilleur de tous les temps, pas mal, là, en joue selon moi, là.
Ouais.
Est-ce que c'est triste, mais une bonne nouvelle, c'est que Diego a callé Fabio dehors, man.
Puis, let's go, ses commentaires sur Instagram. McGregor Promotion qui fait la promotion d'un fight Diego contre fucking Fabio. Puis, je suis dans le tabarnak de voir ça. Mais, blague à part. T'sais, on en a parlé assez, on a vu des vidéos. Je sais pas le déclic s'est fait où pour Diego. On s'en contre-caliste dans le fond. L'important pour l'être humain qui est Diego, c'est d'être détaché de ce petit déchet-là, mon gars, de Fabio. Man. Puis j'espère que l'UFC, par contre, reviendra pas sur la cote. Ça me surprendrait pas qu'ils essayent de faire quand même un Diego Cowboy. Mais j'espère pas qu'ils vont revenir sur la cote. Quoique, ça fait peut-être partie du deal du coupage entre Fabio et Diego. Check. Je le décalisse de ma vie. Vous me reprenez.
À suivre pour vrai, man. À suivre pour vrai, mais oui.
Mais en tout cas, c'est un bon début pour Diego. C'est un bon. On sait qu'au moins. Je ne sais pas qui l'entoure présentement. Ça va être important qu'il soit entouré de bon monde. Parce qu'il y a du ménage à faire dans sa tête. Là. C'est pas juste parce que là, il se déconnecte de Fabio que tout va arrêter. Là. Lui, non, dans sa tête, il y a des affaires qui ne doivent plus. Ben, déjà qu'on sait que Diego, c'est peut-être pas l'être le plus intelligent au monde. Mais là, il doit être déroyé carrément. Fait que, en tout cas, je souhaite qu'il y ait le meilleur.
Définitivement. Puis comme tu sais, pour l'UFC, moi tout, je me disais, ça me surprendrait, mais d'un autre côté,
c'est l'UFC, bro.
Sachant qu'il cherche un dernier combat à Cowboy, puis ce fight-là, il faisait du sens. Le Cowboy Diego, tu peux dire ce que tu veux. Les deux sont autant washed up. Le combat faisait du sens. Puis, si c'est pour être le combat de la dernière chance un peu pour les deux, je serais game de voir l'UFC le ramener pour ce combat-là. Puis vu que
c'est pas mal à cause. C'est pas ça en main event d'un fight night, là.
Non, mais c'est sûr qu'il y a le point de vue.
C'est sûr qu'ils vont faire ça, bro.
Non, mais je sais que Fabio est plus là et tout, mais je pense que Hunter Campbell a encore peur. Genre de Diego, sa condition médicale et tout. Puis il sait que le gars, il pourrait facilement se faire convaincre par un avocat de poursuivre l'UFC pour beaucoup d'argent, là. Fait que je suis pas sûr qu'à cause de ça, je suis pas sûr qu'ils vont une game de le ramener. Parce qu'avec Diego, avec ou sans Josh Fabio, le gars est assez fucked up de par lui-même.
Oh, il est brûlé,
jamais ce qui va arriver. Puis il commence à être magané en tabarnak, surtout quand il est à l'envers à se faire coller des coups de pied flush dans la face par son coach.
Man, il n'y a pas un homme qui se respecte qui accepte de faire ça, man.
Pour ce qui est de ce que McGregor a dit, ben, Charlotte à McGregor qui est encore en train de se crisser le nez partout. Mais principalement, ce que j'avais à dire là-dessus, c'est que tu le sais pour un fait que Josh Fabia ne va jamais se battre avec personne, ne va jamais même faire un rôle de jiu-jitsu avec personne, parce que cet homme-là n'est pas qualifié dans aucun art martial, puis il va pas prendre la chance que cette personne-là le filme à son insu, puis qu'il se fasse basically expose encore plus qu'il est en train de se faire expose.
Ouais, c'est juste des rêves qu'on a entre nous autres.
Ouais, non, c'est genre le maître d'art martial qui va jamais démontrer ses arts martiaux à personne parce qu'il sait qu'il est all bullshit, puis qu'il est passé cave pour le faire on camera, là. C'est direct Josh Fabia, ça.
Penses-tu que... Là, je fabule, là, puis j'espère fabuler pour de vrai. Si un jour, Diego, il reprend sa tête puis il réalise tout qu'est-ce que fucking Fabia il a fait dans sa vie, il va aller le tuer, man. Ça va mal finir, ça, man. Sérieux. Tu sais, mettons que Diego, là, il repogne une bulle, là, puis il réalise tout qu'est-ce que l'autre il a fait. Le gros, il tape dans la face par à l'envers. Diego.
Sûrement, man.
Il est assez... Tu sais, moi, il y a deux gars que je pense qui pourraient finir en tuant du monde. Là. Je vais te le dire tout de suite. Là. Diego fait partie de ça, puis l'autre, c'est Tony Ferguson.
Ben Mike Perry, là, il y en a bien plus que deux.
Ah, man, Tony commence à m'inquiéter plus que...
Ah, non, Tony.
Mike, il a quand même sa... Son new... Ah, malgré qu'il est... Ouais, son new baby born. Il pète des fenêtres à Steve et tout, quand même.
Il n'est pas déjà plus avec la pitoune?
Hein?
Je pense que ouais, je pense que ça va.
Il est plus avec la Tifa ou
la Toya. Je pense que j'ai vu ça passer. Je suis pas sûr.
Il a cru ça voler.
Je pense que j'ai vu ça passer.
Nasty, calice, Mike. C'est pas mal la seule qui le tenait drette, là. On va se le dire dans les dernières années d'un bon
candidat. On a David et tout, il y en a un Chris de bon candidat.
Mayhem Miller. Ça me dit quoi, ce nom-là, mais j'ai pas la fin.
Jason Mayhem Miller, ben, c'est parce que pour la majorité du temps que t'écoutes le MMA depuis, comme hardcore fan, ce gars-là est en prison.
Ah, OK.
C'est lui qui avait fait ton Ultimate Fighter avec Bisping.
OK, je pense que ça sonnait Let Me Bang Bro, ça.
Non, c'est il coachait Ultimate Fighter contre Bisping.
OK, je m'en rappelle pas.
Comme Jason Mayhem Miller, mais oui, excellent candidat pour tuer quelqu'un définitivement.
Je
veux parler rapidement avant qu'on parle de deux combats.
Notre Jesse boy, Arnett B4,
va se battre contre Ray Borg, man. C'est fucking huge ce combat-là.
Ouais, puis Chris, si la tendance de Ray Borg se maintient, ça pente descendante. Puis Arnett, il a comme l'air à vouloir avoir un 22e souffle. Chris, ça va être un bon fight, ça.
Ça va être bon.
Mais Jesse, reste pas debout contre. Je pense pas que ça soit une bonne idée de rester debout contre Ray Borg. Là.
Ray Borg est un meilleur lutteur que Jesse Arnett.
Ouais? Là. Ouais?
Ben oui.
Fuck, il est dans mal.
Un peu.
Ah, ben gros, il va. Tu sais, Jesse, il en reste pas long, là. On va se dire des vraies affaires.
C'est ça.
Il va s'avoir battu contre Ray Borg. C'est beau, c'est CV.
Mec, s'il gagne ça, ça mal, man. C'est ça qu'il faut, là, gagner.
C'est sa coupe Stanley, genre, un peu.
Si il gagne ce combat-là, l'UFC peut le caler pour un short notice si c'était là. Ça me
surprendrait. Le gars s'est quand même battu contre Demetrius Johnson. Là.
Exactement, c'est ça.
C'est quand même fou de penser que toi, tu vas te battre contre un gars qui s'est battu contre sûrement le GOAT.
Moi.
T'sais, parce qu'on parle de GSP, on parle de John Jones, mais on parle jamais de Demetrius, mais c'est un GOAT, là, tant qu'à moi.
Il n'y a pas le choix d'être là, en effet. Oh, ouais. 100% d'accord. Et puis, j'ai pas fait de banner, le gros, là. Mais je veux qu'on termine sur le podcast en ayant une pensée pour notre ami. Notre très bon. Non, ouais, c'est Leslie Smith.
Hey, tough. Le gros, je vais te donner.
Moi, j'ai trouvé ça triste, moi, tout, man.
Oh, si. Hey, parce qu'on savait là, comment ça allait finir. Moi, j'ai dit à Bégin. 5
secondes de la fin, mon gars.
J'ai dit, ça passe pas le premier. Là, la tabarnak, man, elle mangeait tout ça, mon gars. Puis. Chris, elle les a toutes mangées. Mais c'est là qu'on voit que fucking Felicia Spencer aussi, c'est une toffe, là. Mais je veux pas enlever le chaîne à Leslie Smith. Quelle madame, mon gars, quel menton de feu, man. Puis,
ouais. Moi, l'affaire Chris... que je comprends là, encore moins, là, puis oui, ouais. Je suis gros shout-out à Leslie Smith, là, elle est tough. Mais ça, on le savait, Big. S'il y avait une affaire qu'il fallait pas douter de.
Elle doit lever des belles de foin, puis elle doit venir. Oh, elle doit lever des bœufs, man, de même sur ses bras, là, cette madame-là, là, c'est sûr.
Absolument, là. Man. Mais l'affaire qui m'échappe encore, man, puis que je comprends pas, man, puis que je comprendrai jamais, c'est pourquoi le monde n'aime pas Chris Cyborg, est-ce, ils sont là à la montrer en train de faire est-ce, de la charité, tabarnak, d'aider les enfants dans le besoin. Elle fait tout est-ce, pour être une bonne personne dans la vie. Mais ça, mort le monde, est-ce, en MMA. Mais
man, à l'air d'un monstre, le gros.
Je le sais.
C'est pour ça que le monde n'aime pas.
Ils ont fait l'idée, est-ce que Chris Cyborg, vu qu'elle a fait un drug test, vous l'avez millénaire, le gros. Ouais. C'était la pire être humain sur la planète MMA, man.
Je sais.
La bonne, elle essaie juste d'être une bonne personne. Elle va en Afrique, est-ce avec Justin Wren, le gros, s'occuper des
petits-enfants. Creuser des puits, pis tout, est-ce let's go.
Le monde, sont genre, ah, fuck you, Chris Cyborg, est-ce grosse.
Mais c'est son apparence, son nom, son aura. Gros, ça a l'air, tu sais...
Hey, t'es responsable, Bournet, je suis very happy
for you. Ouais. Hey, puis son accent brésilien, c'est la meilleure. Mais tu sais, son apparence, son nom, son aura, sa shape, elle fait peur, man. C'est gros, ouais, c'est dur d'aimer. Tu sais, Amanda Nunes, elle fait peur dans la cage, mais ta voix dans la vie de tous les jours, c'est une madame.
Ouais, mais Chris Cyborg, c'est la même affaire, man.
Ouais, mais c'est
gros, ça. Gros, Amanda Nunes, là, si ça va dans la vie de tous les jours, tu vas regarder et tu vas dire, oh tabarnak. Ben, Amanda Nunes, là, elle est gigantesque, le gros.
Ouais, mais elle va faire un bon sourire. À la limite, tu sais, c'est pas la plus belle, mais tu sais.
Elle mesure 5 et 7, 5 et 8, esti.
Mais Cyborg, le gros, elle te regarde, elle te fait un sourire, t'es genre, Chris, ça va-tu me violer, calice?
Même Ronda Rousey est cute, mais c'est une madame, là.
Ouais, non, je sais, mais Cyborg fait peur, man.
Ouais, il fait peur, je suis d'accord avec
toi. Tu changes de bord de trottoir, là, quand Cyborg marche sur le trottoir, là. Man, elle va, gros, elle va me mettre dans un coin, man, puis elle va me super clit, asti, man.
Ouais, non, c'est ça, tu sais jamais.
Tu sais, je veux pas trop. Mais c'est ça, mais gros.
Elle doit être mariée, ça fait longtemps. En plus, elle était avec Evangelista Santos, c'est pour ça que les deux s'appellent Cyborg.
Lui, puis avec. Fucking l'autre.
Il va te faire un trou dans la tête par MVP, ouais.
Ouais, pis que fucking Nick Diaz, il était comme. Il faisait des fuck you, je sais pas trop, là, dans le top
Strike Force.
Il était là. Il jappait en face.
C'était magnifique.
Shout out à Nick Diaz qui s'entraîne avec mon boy Tyson Fury, man. Ça me fait quand? Quel duo improbable, gros. Tu m'aurais dit qu'un jour, fucking Tyson Fury se retrouverait, man, au gym de Nick Diaz. Pis Chris, c'est sérieux, là. Il y a même son petit frère qui est là. Nick Fury, c'est dans Captain Marvel.
Tommy.
Asti, j'écoute un peu trop de Marvel, c'est un site. Mais c'est cool, man. Chris, voyons donc Tyson Fury puis Nick Diaz. What the fuck?
Yup. Puis finalement, on a pris un bon détour pour arriver au combat pour qui je voulais avoir une pensée, man. Mais je veux avoir une pensée aujourd'hui pour le combattant qui s'est déjà entraîné au Tristar, qui a déjà été... sous la tutelle de Stéphane Patry.
Hey, tu vas-t'en pas de même, toi, là, Chris?
Je suis là.
Sous la tutelle? Ah! Oh.
Je parle de Kevin Lee. Qui a booké son premier combat de retour chez les 170 livres face à Sean Brady.
Y a-tu de quoi de plus Kevin Lee que ça, le gros?
Hey, le gros, il pense qu'il va monter à 170 et battre Sean Brady.
Hey, gros, il va se faire allumer, man. Il va se faire défendre. Gros, il vient pas de perdre contre fucking Neil Magny, lui.
Dos Anjos,
ok.
Olivera,
c'est dans le gros. Oublie ça. Kevin Lee, man. D'après moi, man, son tatou, man, en arrière de la tête, les aiguilles, man, ils ont pété une coupe de cellules. Non,
parce que tu le sais qu'il va arriver et il va dire, moi, je vais out-wrestle.
Là, c'est Sean
Brady.
Qui contrôle Kevin Lee.
Mais non, ça fait longtemps.
Ok. C'est dans le temps de GSP et tout ça.
On s'entend que c'est pas la même époque que GSP et Kevin Lee. Là. Mais jusqu'à quand même récemment, mais pas si récemment que ça, là, genre 2-3 ans.
Ouais, il avait fait venir son frère et tout sur une carte de TKO, mais ça.
Ouais, exactement.
Ok. Kevin Lee, go.
Ça pour dire, Kevin Lee, il pense qu'il va aller out-wrestle Sean Brady, là, puis ça va être drôle en tabarnak à voir.
Kevin Lee, man. Comment qu'un gars si talentueux peut être de même, man? Puis là, on le sait tous, là, il va arriver là, cocky, hein, pas de coupe de poids,
nouveau cardio, nouveau gaz.
Lui, là, la pire affaire qui est arrivée à Kevin Lee, c'est son kick, man, sur Gregor Gillespie. C'est la pire affaire qu'il pouvait y arriver. Ça lui a comme redonné un boost. Puis, ce gars-là, oui. Je sais pas, man. Je sais qu'il faut que tu sois confiant quand tu sois un fighter. Puis, tu sois cocky. Puis, let's go. C'est, en tout cas, peu importe.
Je pense que c'est ça la carte de Connor Poirier en plus. Ça que ça
ouais, en plus.
Ben des gens qui vont voir Kevin Lee se faire
contre. Hey gros, moi je veux voir une conférence de presse avec Connor et Kevin Lee, puis d'avoir Kevin Lee essayer de noter Link Connor.
Alors, Dieu sait que Kevin Lee va s'essayer sur Connor à la conférence de presse.
Ah, ben oui! Ah, ouais, ça va être. C'est tout, ça va être légendaire.
Ça va être il va avoir un deuxième ou de focus that guy moment, littéralement.
Ah, si. Ouais.
Bon, fait que c'était assez. Bye.
Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. C'est la hypo, podcast. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. C'est la hypo, podcast. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Comme si j'étais John Jones. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. C'est la hypo, podcast.